Europe Matin Weekend.
Bonjour à tous, je vous espère en pleine forme comme nous. Est-ce que vous avez déjà calé vos prochaines vacances, celles de février, celles de cet été, ou partir avec le pass vaccinal, pourquoi pas en Italie? À Rome ou ailleurs, retrouver les aéroports sans protocole, sans test PCR, sans masque, retrouver une vie normale, tout oublié quoi. Et puis nos mômes, quand est-ce qu'ils pourront repartir en classe de neige, en classe de découverte ?
Les jolies colonies de vacances, merci maman, merci papa.
Bref, on a plein de questions à poser au ministre du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. Il sera avec nous ce matin, 7h10, on parle avec lui des discothèques, des aides, des PME. Et puis à 8h moins le quart, ça vous concerne, spécial vacances, toujours avec le ministre. Donc nous sommes le dimanche 23 janvier, soyez les bienvenus dans votre matinale week-end, c'est parti. Il est 6h, bon réveil à tous.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et c'est Lénaïque Monnier qui vous informe, première édition. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Éric Zemmour rappelle à l'Union des droites, reportage au cœur d'un meeting survolté hier à Cannes.
Le pass vaccinal arrive demain en pleine accalmie de l'épidémie. Nous verrons avec un médecin s'il se justifie ou pas.
Du foot dans ce journal, Olympique de Marseille, deuxième du championnat ce matin après la victoire à Lens hier soir.
Dans votre prochaine demi-heure, les pronostics de Thierry Léger pour le Quintet à Vincennes aujourd'hui. Mélanie Gomez et Julia Vignali se demanderont comment être heureux en amour, vaste programme. Et puis à 6h23, Mathieu Noël nous plaidera pour ces riches qui sont encore devenus plus riches en 2021. Mais d'abord la tendance météo avec vous, très chère Valérie Darmon, comment allez-vous ?
Eh ben, je vais bien, on parle vacances, ça va forcément.
On y croit.
On y croit, exactement.
La tendance du jour.
Eh bien, des grisailles persistantes sur toute la moitié nord de la France, truffées de brouillard givrant en Val-de-Saône et en Alsace en matinée, et plein soleil toujours en montagne et près de la Méditerranée.
Le détail météo dans 7 minutes. Voulait-il marquer le coup face à la concurrence ? Éric Zemmour a tenu meeting à Cannes hier devant un public survolté.
Oui, le candidat a appelé à l'union de la droite, entouré de ses récents soutiens, Jérôme Rivière, Guillaume Pelletier ou encore Gilbert Collard. Une démonstration de force à laquelle a assisté Victor Chabert pour Europe 1.
Une salle chauffée à blanc, plus de 4000 personnes, une marée de drapeaux tricolores. Philippe Devilliers appelle sur scène le dernier alliement, Gilbert Collard.
Bienvenue à Gilbert Collard !
Je n'ai pas, contrairement à ce que disent mes anciens amis du Rassemblement National, de l'aigreur. J'ai l'estomac politique qui fonctionne bien.
Éric Zemmour n'a pas choisi Cannes par hasard. C'est une ville historiquement de droite, celle-là même qu'il veut unir.
L'appel des victoires, c'est l'appel à abolir ce fameux et funeste cordon sanitaire. À vous, électeurs du Front National, qui n'en pouvaient plus de perdre. À vous, électeurs des Républicains, qui n'en pouvaient plus de voir vos dirigeants trahir vos idées. Unissons nos forces.
Avec les ralliements, puis une matinée dans les rues ensoleillées de Cannes qui se transforme en bain de foule et un grand meeting devant plusieurs milliers de personnes. C'est une séquence sans encombre pour Éric Zemmour. Son entourage confie que d'autres personnalités, LR et RN, devraient le rejoindre dans les prochaines semaines.
Victor Chabert du service politique d'Europe 1. Un peu plus tôt, salle plus clairsemée pour Anne Hidalgo à Aubervilliers. La candidate socialiste a promis de ne pas se résigner malgré des sondages en Berne. Comprenez par là que la maire de Paris ne tiendra pas compte du résultat de la primaire populaire. Plus de 370 000 personnes sont déjà inscrites. Clôture des inscriptions d'ailleurs ce soir minuit.
Les opposants au pass vaccinal dans la rue hier, un pass qui entre en vigueur demain.
Oui, moins de 40 000 personnes qui ont pris part aux manifestations anti-pass sanitaire, un chiffre en baisse par rapport à la semaine dernière. Dans les Pyrénées-Orientales, le député La République En Marche, Romain Gros, a été pris à partie par des manifestants, on l'entendra à 7h. L'arrivée du pass vaccinal qui a pour objectif, vous le savez, de pousser les derniers rétifs à se faire vacciner. Christian Prudhomme est médecin urgentiste en Seine-Saint-Denis. Il est président aussi des syndicats des urgentistes et il considère que cet outil arrive tout simplement trop tard.
Non, ce n'est pas le bon outil, qui plus est, pas dans la bonne période. C'est trop tard parce que on a passé quasiment 3 semaines à discuter de mesures qui arrivent à un moment donné où cette vague va refluer, qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, est-ce que quelle sera l'efficacité de la vaccination sur les variants qui arrivent. C'est complètement décalé. On voit bien, les chiffres sont aujourd'hui très parlants. Ce n'est pas parce qu'on applique ces mesures coercitives qu'il y a une explosion des primo-vaccinations. Voilà, on est toujours aux alentours de 30 à 40 000 par jour. 30 à 40 000 par jour pour 5 millions, il va falloir 3 mois pour éventuellement que ces gens-là se fassent vacciner. Et puis, ils ne viendront pas forcément dans les conditions actuelles.
L'urgentiste Christophe Prudhomme au micro Europe 1 de Nina Droff. À propos de chiffres, par ailleurs, le nombre de patients à l'hôpital en soins critiques continue de baisser, mais lentement.
Et d'ailleurs, Lénaïc, c'est un peu le même constat dans d'autres pays d'Europe.
Oui, ce qui entraîne ça et là des levées de restrictions. C'est le cas des Anglais, par exemple. Des chiffres, les Anglais qui sont de retour justement dans les stations de ski, ils y sont autorisés. Autant vous dire que les commerçants de la Plagne en Savoie ont retrouvé le sourire. Un reportage de notre correspondant Jean-Luc Boujon.
Ils n'étaient pas là pour Noël et cela s'était vu dans les rues de la Plagne car la station savoyarde est une des préférées des Anglais qui en hiver normal représente près de 20% de la fréquentation. Pour le maire Jean-Luc Bock, retrouver la clientèle britannique, c'est donc une...
excellente nouvelle. La Plagne, c'est plusieurs dizaines de milliers d'Anglais qui viennent chaque semaine nous voir. Aujourd'hui, ils reviennent et on est très heureux de les accueillir.
D'ailleurs, les appels venus d'outre-Manche se font beaucoup plus nombreux depuis quelques jours.
Oxygène Immobilier, Sophia, bonjour.
Hello, I would like some information about an accommodation for the week.
Ce que confirme Sybille de Montvalier de l'agence immobilière Oxygène.
Effectivement, on a des réservations de la part de clients anglais tous les jours qui rentrent. Beaucoup d'appels, beaucoup de mails, beaucoup de consultations. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie.
Dans les restaurants aussi, on se réjouit de ce retour, explique Stéphane Grilladou, patron des Cocottes situées au pied des pistes.
On les attend avec impatience, nous on les adore. C'est des personnes très joviales, on s'entend très bien avec eux, ils mettent la bonne ambiance. Et en plus, c'est des bons consommateurs, ça c'est vrai. Ça consomme de la bière quand il fait beau, en terrasse, à l'intérieur. Les dépenses, non, ils regardent jamais. Ce qu'ils veulent, c'est profiter et se faire plaisir surtout.
Chaque année, les retombées économiques de la clientèle anglaise sur les domaines skiables français sont estimées à 1 milliard d'euros. La Plagne, Jean-Luc Boujon, Europe.
Et puis, je vous l'ai dit, on verra à quoi vont ressembler vos vacances. 7h10, 7h45, Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé notamment du tourisme, sera avec nous ce matin.
Son nom fait trembler tous les parents de futurs bacheliers. On parle de Parcoursup ce matin, avec un stress supplémentaire cette année, puisqu'il demeure des incertitudes liées au calendrier du bac. Colin Champion est en terminale. Il est aussi le président du syndicat La Voix Lycéenne.
Quand on est devant notre ordinateur, le problème, c'est qu'on se dit que c'est un algorithme pour chaque université, pour chaque fac, qui va décider de nous sélectionner ou pas. C'est en apparence très facile, très simple, et ça marche beaucoup. Sauf qu'en fait, c'est surtout beaucoup de stress et un accompagnement qui, sur le terrain, en réalité, n'est pas très présent. En fait, on manque clairement de conseillers, conseillères d'orientation qui soient à l'écoute, qui aient du temps à nous consacrer. Et actuellement, ils ont en général une demi-heure à nous consacrer en rendez-vous pour discuter de ça. Bah oui, ça ne suffit pas. Et je pense que cette problématique-là, elle revient beaucoup avec la situation sanitaire, avec tout ça. On a eu une vraie rupture dans nos enseignements et on a peur que ça nous défavorise sur Parcoursup pour l'enseignement supérieur et puis aussi, surtout pour les épreuves qui arrivent et qui vont être prises en compte dans le bac à la fin de l'année.
Colin Champion avec Élodie Salé. J'ajoute que les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 29 mars et qu'il y a 10 vœux possibles.
Les Nike, les sports à présent avec la victoire de Marseille à Lens hier soir. Ligue 1.
Oui, succès 2-0 qui permettent à l'OM de prendre la deuxième place du classement ce matin. Écoutez, Cédric Bakambou, c'était son premier match sous les couleurs marseillaises et ça tombe bien, il a marqué.
J'avais à cœur d'apporter ma pierre à l'édifice, entre guillemets. Chose faite, je suis rentré avec détermination, avec hargne et j'ai la chance d'avoir un bon ballon de Matteo qui me la met bien aussi, il faut le souligner. Et je concrétise et 2-0, c'est vrai qu'après le match, il est beaucoup plus facile pour nous. Difficile de rêver mieux. Le plus important aujourd'hui, c'est que l'Olympique de Marseille rapporte les 3 points à la maison. Voilà, une victoire à l'extérieur, en plus avec un clean sheet à la clé. C'est top pour la confiance, que ce soit offensivement ou défensivement. Il faut qu'on continue sur cette lancée.
Cédric Bakambou avec Sébastien Bouey. Hier, Brest a battu Lille 2-0. Les matchs du jour, Metz, Nice, Bordeaux-Strasbourg ou encore Nantes-Lorient. C'est Paris qui clôture cette 22e journée en recevant Reims. Match à suivre en direct et en intégralité, bien sûr, sur Europe 1.
Et puis d'un mot, la déception des handballeurs français au Mondial.
Oui, ils ont été très largement battus par l'Islande, 29-21. Les champions olympiques devront remporter leurs 2 prochains matchs contre le Monténégro demain, puis contre le Danemark mercredi pour espérer se qualifier.
C'était le journal de l'ENA. Naïk Moigny, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Alors, le temps de votre dimanche, Valérie Darmon, bah, ça évolue peu hein, par rapport à hier.
Exactement, aucune surprise. Le temps qui reste calme, la grisaille bien épaisse qui continue de s'imposer sur la moitié nord, du Lyonnais au centre, à la Lorraine, avec sur ces régions des brouillards givrants qui se dissipent au fil de la matinée, brouillards locaux non givrants cette fois en Bretagne, en Normandie jusque sur la région de Lille, dans toujours cette grisaille à couper au couteau.
Dans le sud, ça donne quoi ?
Ça donne du soleil, de la Nouvelle-Aquitaine avec quelques brouillards dans les Landes, au sud du Massif central aussi, en Occitanie sur les Alpes et PACA, la journée qui est toujours et qui va être surtout bien ensoleillée dès le lever du soleil à 8h03 à Marseille et à 8h31 à Bordeaux.
Ah, 8h03 à Marseille, très bien, très bien. Les températures.
Les températures, toujours les mêmes. Elles sont froides, moins 4 à Tarbes, moins 3 à Mulhouse ce matin, moins 2 à Aurillac, moins 1 à Bordeaux et Biarritz, 0 à Clermont-Ferrand, à Besançon, à Toulon, 2 à Lyon, 3 à Rouen et Montpellier, 4 à Paris et 6 degrés à Nice pour ce matin. Et cet après-midi, des maximales entre 2 à Bourg-en-Bresse et 14 du côté de Toulon.
Allez-vous, je vous embrasse, à tout à l'heure Valérie. Dans un instant, on va parler de notre couple, comment rester heureux à deux. Et puis à 6h20, la plaidoirie de Maître Noël. Mathieu Noël qui va défendre à sa façon ceux qui se sont enrichis pendant la pandémie. Mais avant cela, bien sûr, les pronostics pour le quintet du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Thierry, c'est un magnifique quintet qui nous est proposé cet après-midi à Vincennes. Le prix de Cornulier, le championnat du monde au trot monté. Et parmi les 15 partants qui en découdront sur la distance de 2700 mètres, j'ai choisi Flamme du Goutier, le numéro 9, deuxième de cette même épreuve l'an dernier et qui a été à nouveau préparé avec minutie depuis plusieurs mois en vue de cet objectif. Je peux vous assurer que cette jument, qui n'a encore jamais déçu dans la spécialité qui nous intéresse, va se présenter au summum de sa condition physique. On lui opposera les numéros 4 Grandvillesse Bleu, incontestablement la meilleure de sa génération et qui doit pouvoir ici, face à l'élite, disputer activement la victoire. 14 Bayakeno, la tenante du titre, est toujours aussi vaillante malgré ses 11 ans. Et 12 Étoile de Bruyère, deuxième de ce prix de Cornulier en 2020, troisième en 2021 et qui cette année devrait à nouveau conclure dans les 5 premiers. Enfin les numéros 15, Billy Billy, 8, Gladys des Plaines, 13, Feeling Cash et 6, Freeman de Well compléteront ma sélection. Mon pronostic, 9, 4, 14, 12, 15, 8, 13 et 6.
Bien noté, merci beaucoup Thierry Léger.
Europe 1, 11h30, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
6h12, Europe 1 parle de vous, parle de nous, avec les meilleurs moments de l'émission Bien fait pour vous, tous les matins du lundi au vendredi. Mélanie Gomez et Julia Vignali recevaient cette semaine Camille Rocher. Elle est psychologue et thérapeute de couple. Elle évoquait les idées reçues pour être heureux en couple.
On vous propose de démarrer l'émission avec cette question. Quelles sont les croyances, les fausses croyances qui nous empêchent d'être heureux en amour ?
Eh oui Mélanie, il y aura de l'amour dans l'air aujourd'hui, tant bien fait pour vous. On va surtout battre en brèche un certain nombre de mythes amoureux qui peuvent nous créer des blocages dans notre vie sentimentale, comme, je sais pas moi par exemple, les opposés s'attirent. Mais d'où ça sort franchement cette idée ? On va décrypter tous ces mythes dans quelques instants avec notre invité, mais avant ça, on va demander à notre cupidon humoriste comment les gens dans la rue ont réagi à notre question du jour. Bonjour Clément Lanoux.
Bonjour tout le monde, je suis de très bonne humeur car aujourd'hui on va parler d'amour et vous savez que j'adore ça.
Vous êtes un lover, hein, c'est vrai.
Je suis un amoureux, effectivement. Je suis un homme heureux et justement c'est pas simple d'être heureux quand on est en couple. Alors déjà, je me suis tourné vers les enfants. Amour rime avec toujours, est-ce que c'est vrai ou pas ? Combien de temps ça dure en moyenne une histoire d'amour ?
Ben non, parce que tu peux déjà ne plus aimer une personne. Parce que dans toute ta vie tu vas croiser d'autres personnes et peut-être que tu vas la préférer à une autre personne.
Mais voilà, c'est vrai, c'est déjà, pas bête, hein. Ils sont pas optimistes. Hein.
Ah, on est loin des contes de fées, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Là. Non, il y a un moment où tu vas préférer quelqu'un d'autre, ça va peut-être s'arrêter, on ne sait pas. En tout cas, je me suis tourné vers les ados à ce moment-là et j'ai voulu savoir, c'est quoi des problèmes dans un couple ?
Bah, il veut toujours être là, le centre de l'attention et tout. Bah, c'est un peu relou et lassant.
Quand pour un oui et pour un non, on va s'embrouiller. Ton compagnon, il aime pas une personne, tu vois la personne, et bah, ça va l'énerver et du coup, ça va faire une embrouille.
Ça sent le vécu alors qu'elles n'ont que 15-16 ans. Et là, j'ai croisé un couple. Ils sont ensemble depuis quelques années et je me suis permis de m'immiscer entre eux et de leur dire « Mais c'est quoi alors vos problèmes de couple ? Qu'est-ce qui fait que parfois ça va moins bien ?»
Elle part peut-être souvent un peu trop dans les tours.
Moi, c'est peut-être son côté maniaque par rapport aux choses de fille, genre les cheveux dans la douche.
Oui, elle n'est pas aussi maniaque, ça m'agace. On dit souvent que c'est les hommes qui foutent le bordel, mais là, je crois que c'est l'inverse.
Et ouais, le petit rire de « je vais m'en prendre une après ce reportage, c'est bien ». 10 ans de vie commune ruinée par Europe 1, merci beaucoup. Après, j'ai croisé une femme qui avait 50 ans de mariage, et là, je me suis dit « waouh, bravo ».
Il oublie peut-être plus de choses maintenant qu'au début, voilà. Plus lent, beaucoup plus lent à réagir.
Voilà. Bah dis donc, 50 ans qu'elle lui parle comme ça, vous pensez ?
J'ai l'impression, alors là, il n'était pas à côté, mais peut-être qu'il nous écoute, on ne sait pas. Alors justement, je me suis tourné vers d'autres personnes et je me suis dit, qu'est-ce qui, quand on se met en couple, est très agréable au début et peut devenir un peu pénible avec les années ?
Les surnoms, c'est très cuculapraline. Genre, mon amour, tout ça, au début, c'est bien, c'est drôle, c'est mignon, mais au bout d'un moment, stop.
Bah, elle a raison, hein.
Genre, mon amour, bébé, chérie, c'est bon, stop.
Ça m'a poussé.
Ah non, j'aime vraiment pas ça, c'est horrible.
Alors, c'est toujours les ados vus de l'extérieur. Hein. Oui. Vus de l'extérieur, c'est ça. On commence, quand on s'appelle, mon petit minou.
Comment vous appelez votre chérie ?
Ma chérie.
Oh, ah, bah voilà, je suis. Et vous, Mélanie, comment s'appelle votre
bébé,
mari ?
Bébé, mon amour, chérie, je suis ridicule, je crois.
Ouais, mais c'est trop mignon.
Et enfin, je vous quitterai justement avec cette femme qui a peut-être trouvé la solution pour être heureuse, en tout cas pour ne pas être déçue par le quotidien.
Quand je l'ai rencontré, il jouait tout le temps à FIFA, il regardait tous les week-ends la Formule 1 et il mangeait trop mal. Du coup, bah, avec le temps, c'est pas si pire, c'est même plutôt mieux, je dirais.
Oui. Pas mal.
Prenez quelqu'un avec énormément de défauts, comme ça on s'habituera. Au pire, si les qualités se développent, ça peut être que mieux.
Mais quelle bonne idée, merci.
Merci beaucoup Clément Lanoux pour ce reportage de terrain. Vous arrivez vraiment à faire parler des gens sur tous les sujets, hein, y compris les plus intimes.
Oui, enfin j'ai ruiné un couple là.
Vous
quand même.
Êtes fantastique. Bon, à présent, on va accueillir notre invité. Bonjour Camille Rocher.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes psychologue, elle aimait aussi hein, votre oui. reportage, on va voir ce qu'elle va vous en dire. Camille, vous êtes psychologue, thérapeute de couple et l'auteur du livre « Les cinq croyances qui empêchent d'être heureux en couple » aux édition Larousse. Alors on va commencer par la première croyance hein, qui vient des contes de fées. On a tout imaginé un jour être Blanche-Neige en se disant un jour mon prince viendra. Et parfois il vient pas. Alors justement, alors est-ce que on peut, enfin ça vient d'où ? Pourquoi on a l'impression que un jour un homme va nous sauver ? D'ailleurs, c'est plus tellement 2022. Hein,
Ça c'est intéressant. Ouais, parce que la chronique de Clément a été géniale parce que c'était justement l'objectif de mon livre, c'est aussi de remettre du positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est vachement désillusionné sur le couple et c'est dommage et c'est vrai que les jeunes quand on les écoute on se dit mais là où avant les petites filles jouaient à la poupée et imaginaient le prince parfait en fait aujourd'hui c'est plus tellement le cas et c'est dommage mais après on est évidemment dans une société où le couple est mis à mal.
Mais c'est pas que dommage peut-être non qu'une petite jeune fille
soit plus lucide que nous
voilà,
quand on était jeune
et ne se construise pas en disant il y a un bonhomme qui va venir me chercher.
En fait je pense qu'on a besoin d'idéaux quand même pour avancer, avoir un but, d'ailleurs dans le couple, on doit avoir cet axe vertical qui nous mène vers un idéal commun et c'est là où les ressemblances se rassemblent. Mais il y a vraiment une idée que oui, évidemment, le prince charmant qui est un idéal ne doit pas être cet idéal que je dois viser. Mais orienter mon idéal vers des valeurs essentielles qui font que le couple va fonctionner, ce qu'on va transmettre à nos enfants si on veut des enfants, enfin voilà.
Et c'est quoi ces valeurs par exemple ?
En fait, c'est les valeurs qui sont essentielles pour vous. Donc ça va être les grandes valeurs essentielles, c'est la notion de la religion, ça en fait partie évidemment parce que ça crée des conflits. L'éducation, donc il y a dedans aussi la culture. Quand on a des cultures trop différentes, au bout d'un moment, il y a trop de conflits, on ne se comprend pas. Ça va être aussi est-ce qu'on veut des enfants ou pas ? Ça peut être la façon dont on va éduquer nos enfants, mais vraiment en tant que parents, les parents que l'on veut être. Vous voyez, c'est vraiment ce sont des valeurs. Quelle que soit la personne, je ne veux pas y déroger. Même par amour, je ne peux pas y déroger. Voilà. Et ça, c'est un idéal. Mais évidemment, l'idéal du prince charmant, bien sûr que ça n'existe pas. Donc ça va forcément nous faire rentrer dans une impasse.
Une autre croyance, hein, c'est celle des opposés qui s'attirent. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup.
Oui.
Mais il y a quand même un peu de vrai là, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, complètement. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, il y a un axe vertical où là, il faut absolument qu'on se ressemble sur ces valeurs essentielles. Sinon, au bout d'un moment, ça ne tient plus. Quand justement, on est un peu moins amoureux, le quotidien est moins sympa. Si je ne suis pas persuadée que j'ai choisi la bonne personne parce qu'on partage ce truc-là, là, ça, c'est là où c'est trop fragile. Et donc, sur les opposés s'attirent. Là, on est plus sur cet axe vertical, horizontal, qui lui va être justement ce quotidien. Et quand on est différent, c'est génial parce qu'on se stimule, on a des idées que nous on n'aurait pas.
On se complète aussi.
Mais
il faut le socle des valeurs. En fait, il faut le socle des valeurs. Ouais. Et après, les opposés s'attirent, ça peut devenir vrai.
Eh ben complètement.
S'il n'y a pas
tout
le socle,
mais
faux.
Si on n'a pas suffisamment de ressemblance, pour moi, c'est trop fragile.
Alors, on dit aussi, oui, qui se ressemble, ça semble. Alors, c'est lequel qui est vrai parce que c'est quand
mais
même...
les deux.
Ah, les deux sont vrais.
Ouais, non, mais en
c'est
fait...
ça. Ce socle commun, c'est qui se ressemble, ça semble d'une certaine façon. Et les opposés s'attirent, c'est la richesse qu'on va obtenir avec les différences de l'autre. Quoi.
Voilà.
C'est ça,
dans et en fait, l'idée, c'est de ne pas aller ni dans un extrême ni dans l'autre. Si on n'est que dans des opposés, ça ne marche pas. Et si on se ressemble trop, ça ne marche pas non plus. Enfin, voilà, il faut... c'est vraiment un équilibre entre les deux.
Bien fait pour vous, c'est du lundi au vendredi, de 11h à midi et demi.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
L'info express à 6h20, les Nike Monnier.
Et la baisse de la fréquentation dans les manifestations anti-pass vaccinales, moins de 40 000 personnes hier. Le député La République En Marche, Romain Gros, ainsi qu'un conseiller parlementaire ont été violemment pris à partie à Perpignan. Ils ont attaqué sa permanence. Éric Zemmour était à Cannes hier, meeting devant un public survolté où les nouvelles recrues sont toutes montées à la tribune. Le candidat a appelé à l'union des droites. La tension est remontée d'un cran dans la crise ukrainienne. Face à la menace grandissante d'une invasion russe, les États-Unis, le Royaume-Uni et les Pays-Baltes ont annoncé l'envoi d'armes en Ukraine, notamment des missiles anti-aériens et anti-chars. Un homme de 24 ans et sa compagne de 21 ans mis en examen à Bourges et placé en détention provisoire pour des actes de torture et de barbarie sur leur petit garçon de 4 ans. À plusieurs reprises, le garçon a été victime de coups avant d'être enfermé dans sa chambre sans eau, sans nourriture, ni possibilité d'accéder aux toilettes. À moins de 2 semaines du début des Jeux Olympiques d'hiver, Pékin annonce dépister tous les habitants d'un quartier après la découverte d'un foyer épidémique. La ville a signalé le week-end dernier un premier cas du très contagieux variant Omicron.
Merci Lénaïque, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Dans un instant, le meilleur de Mathieu Noël, puis de la musique avec ses phases. Merci d'être avec nous sur Europe 1. À tout de suite.
Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral.
6h23, Mathieu Noël à présent. Maître Mathieu Noël qu'on réécoute le dimanche matin à cette heure-ci. C'était cette semaine dans la matinale de Dimitri Pavlenko.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Ses clients, les 10 plus riches milliardaires du monde, sont pointés du doigt cette semaine par le rapport d'Oxfam qui révèle que leur fortune, déjà colossale, a doublé durant la pandémie. On accueille ce matin l'avocat des causes perdues, mais des causes blindées aussi. Non pas Mathieu Noël, qui n'a pas encore d'aussi gros clients, mais son cousin suisse, celui qui a réussi dans la famille. Bonjour Helmut von Rusty.
Mais bonjour à tous, ça va ou bien? Tenez, vous donnerez les clés de ma voiture au voiturier, je me suis garé en double fil. Hein.
Oh, mais dis donc, ça a l'air d'un... Mais ça... on n'a pas de voiturier, nous, ici. Hein.
Vous n'avez pas de voiturier. Vous garez vous-même vos propres véhicules. Ouais. Bah, non, ça va vraiment pas fort à Europe 1.
Bon, vous, ça a l'air d'aller parce que vous roulez en Porsche.
Oh bah, je roule pas en Dacia. Hein. J'ai le cœur à gauche, mais je conduis à droite. Après, est-ce que ça va fort, comme vous dites, monsieur Pavlenko? Vous êtes un fiefé flatteur. Hein. Vous savez, moi, je suis juste un petit avocat d'affaires qui permet à 2-3 deals de se concrétiser autour d'une perche du lac arrosée d'un petit vin du Valais. À ce propos, monsieur Bétou, je sais que vous étiez inquiet que l'affaire Vindel remonte à vous. Eh ben, vous pouvez dormir tranquille sur votre surmatelas Sofitel. J'ai fait tout comme vous m'avez dit. J'ai demandé à notre ami de l'UBS d'effacer tous les liens vers les sociétés écrans aux Bahamas et j'ai converti tous les actifs en Bitcoin.
Ah, merci.
Mais c'est normal. Service.
Bon, ça va me coûter cher encore une fois.
Ouais. C'est sûr, ouais, un pourcentage. Mais
bien sûr, je garde les clés, je garde la bagnole. Hein. Maître, vous avez beau éluder le sujet, mais on s'en doute, le rapport Oxfam a dû faire beaucoup de bruit chez vos clients milliardaires, accusés donc de s'être plus enrichis durant les 19 derniers mois que sur l'ensemble de la dernière décennie. Le chiffre est fou quand même, j'imagine que vos clients contestent.
Oh bah ça c'est sûr, Pavlenko. Tu doutes bien du branle-bas de combat au cabinet quand le rapport d'Oxfam est tombé. Nos clients étaient choqués. Elon Musk, il a dormi dans une Tesla pour être plus vite à l'aéroport le matin. Bezos, il a sauté dans son jet. Pete Zuckerberg, il a chialé comme un gosse. Ces types-là, qu'une ONG les présente comme des prédateurs qui s'enrichissent pendant que le reste de la planète se serre la ceinture, mais ça les dévaste psychologiquement.
À ce point-là?
Sérieux, Einstein? Tu déconnes ou bien c'est bizarre? L'alopécie, normalement, ça attaque ce qu'il y a dessus, pas ce qu'il y a dessous. Mais enfin, Pavlenko, t'imagines vraiment des milliardaires avoir un cas de conscience parce qu'ils ont gagné 2 fois plus que d'habitude? Tant que t'y es, tu veux pas non plus qu'ils aillent voir Wistreham avec Juliette Binoche en se flagellant avec le monde diplo? Mais bien sûr que non, mes clients, ils ont rien à secouer de ton rapport d'Oxfam sur les inégalités. Quand ils ont vu les chiffres, ils ont sabré le champagne.
Et puis c'est bien normal. Il y a vraiment qu'en France, sur des radios de journalopes bolcheviques comme la vôtre, Monsieur Pavlenko, qu'on voit d'un mauvais œil le succès de l'entrepreneuriat. Heureusement, il y a encore quelques personnes sur votre antenne qui valorisent la réussite individuelle. Je vous conseille une excellente tribune signée Vincent Bernard dans L'Opinion, l'excellente gazette marxiste modérée de Monsieur Bétou. Il explique très bien qu'en fait, la part du patrimoine des 1% les plus riches n'a fait que chuter depuis 1900. Piketty, il a dû se tromper dans les chiffres, puis c'est tout. Et puis, il y a aussi pas mal d'hypocrisie, parce que l'autre jour, quand Bétou vous a annoncé son nouveau salaire pour 2022, vous aviez l'air plutôt content pour lui.
Le million.
Et encore, le million. Hors ticket restaurant, à ce qu'on dit, un sacré Nico. Hein.
Mais maître, tout de même, que les milliardaires doublent leur fortune en moins de 2 ans, bon, passe encore, mais le rapport dénonce dans le même temps l'augmentation de la pauvreté. 160 millions de pauvres en plus dans le monde, ce chiffre, quand même, ça ne peut pas vous laisser indifférent.
La pauvreté, c'est terrible, bien sûr. En Suisse aussi, on a des pauvres. Faut pas croire. On les voit. Ils conduisent des Peugeot. Ils ont des montres à quartz. Ils ont même pas de chalet. Ils appellent Gruyère l'Emmental. Ça vous fend le cœur de voir ça. On les suit du regard alors qu'ils flânent rue du Rhône devant les vitrines de nos bijouteries. Puis ben le soir, on les voit remonter dans leur 3008 et se diriger vers la douane.
Ce sont des Français ?
Ah bah oui, c'est quand même pas des Suisses. Ah bah je vous rappelle que l'année dernière, on a failli voter le SMIC à 3500 euros. Non, évidemment qu'il y a des inégalités dans le monde. Mais les inégalités, c'est le moteur du capitalisme. Vous voulez quoi ? Qu'on revienne à l'économie de troc ? Qu'on redevienne des chasseurs-cueilleurs à se balader dans la forêt avec un arc, des flèches et un étui peignien? Vous imaginez Bétou avec un étui peignien trinquant la biche dans le bocage normand? Alors bien sûr, les sociétés primitives étaient plus égalitaires. Mais à quoi ça t'avance de vivre dans une société égalitaire si t'as pas Uber Eats? Faut réfléchir un peu avant d'accabler les riches. D'autant que l'argent fait pas le bonheur. Bezos, pour se faire plaisir, il est obligé d'acheter un yacht plus gros que Bill Gates. Alors qu'Anissa, par exemple, un pull de Noël Lidl suffit à la combler. Le bonheur s'achète pas. Et le bonheur pour des gens comme Madame Adadi, c'est souvent même gratuit. C'est quand, après une journée de dur labeur à lire des bulletins Météo France, elle rentre dans son 3 pièces cuisine et qu'elle s'affale dans son canapé Château d'Axe avec un bol de Chipster, un verre de Beaujolais nouveau, devant une émission de Nagui où des CSP- essayent de trouver des paroles de chansons pour gagner des vacances à Center Parcs.
C'est pas passé, on a belle à consommer.
Ouais.
Ça va quoi? C'est pas passé, on a belle à consommer.
Ouais, chacun ses plaisirs dans la vie, pas besoin de monter les uns contre les autres. À bon entendeur, Oxfam, et puis Monsieur Bétou, au sujet de ce nouveau salaire 2022, avez-vous pensé placement?
C'est mensuel.
Bah, c'est mensuel, alors justement, j'ai 2-3 options un peu agressives pour vous. Si vous êtes joueur, on peut en discuter hors antenne, discrètement. Parce que parmi tous les CSP+ qui nous écoutent, j'ai vu, il y a certainement 2-3 agents de Bercy. Hein. On s'appelle en masqué, on se fait une fondue.
Merci maître. Allez, on vous retrouve à 16h dans Historiquement Vôtre, aux côtés de Stéphane Bern.
Voilà, et dans 3 minutes, le journal 5 millions de non-vaccinés. Est-ce que ça va changer avec le pass vaccinal qui entre en vigueur demain? Mais tout de suite, c'est phase. Il est né au Ghana, il a failli devenir joueur de pro, de foot. C'est lui qui était en lice face à Barbara Pravi pour l'Eurovision 2021. Son dernier single sur Europe 1 ce matin. Bon réveil à vous.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et je vous rappelle notre page Facebook. À vos questions, vos réactions, vos suggestions, notez bien Europe Matin Week-end, 6h30 sur Europe 1, l'information de ce dimanche matin. Clément Gouisse, bonjour Clément.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Le quotidien des non-vaccinés va être bouleversé dès demain. Le pass vaccinal entre en vigueur. 5 millions de Français ne pourront plus prendre le train, manger au restaurant ou encore visiter des musées. On en parle en début de ce journal.
Que se passe-t-il en Guadeloupe? Les violences urbaines des dernières semaines auraient été planifiées par des gangs. Un fonctionnaire de police a été incarcéré. Nous entendrons dans un instant le procureur de la République, Patrick Desjardins.
Lionel Messi fait son grand retour au Parc des Princes. Premier match de l'année pour l'Argentin ce soir face à Reims.
Au sommaire de votre prochaine demi-heure à 6h40, une date, une histoire. Philippe Legrand reçoit le champion du monde 98, Franck Leboeuf. À 7h10, la balade du dimanche. Vanessa Zan nous emmènera en Camargue et Marion Sauveur à La Réunion pour nous faire déguster des ananas. Mais d'abord, la tendance météo avec vous, Valérie Darmon.
Eh bien, la France qui est toujours coupée en deux avec du soleil au sud, une épaisse couche de nuages bas au nord avec moins de givre qu'hier matin.
On détaille tout cela dans 7 minutes. La vie de 5 millions de non-vaccinés va changer dès demain. Ils ne pourront plus se rendre dans les restaurants, cafés, cinémas et prendre le train.
Le pass vaccinal entre en vigueur ce lundi en France. Justement, Nina Droff, vous avez pu échanger avec certains d'entre eux et ils sont prêts à faire les ajustements nécessaires dans leur vie.
Véronique, 50 ans, n'est pas vaccinée. Elle se prépare donc à se priver d'un certain nombre de choses, de restaurants, de musées, de voyages. Mais ses contraintes ne lui font pas peur.
Les restaurants, on va chercher de l'emporter et puis on mange chez soi. On fait des fêtes conviviales avec les amis. Je fais énormément de télétravail et beaucoup de communication individuelle. Donc ça ne pose aucun souci pour le moment. On va s'adapter au coup par coup.
Même son de cloche chez Patrick, retraité de 65 ans, lui a reçu 2 injections, mais pas la 3e. Ces nouvelles restrictions l'agacent, mais elles ne lui feront pas changer d'avis.
Ça me gêne quand même un peu. Prendre le train, par exemple, ça, c'est gênant. Bon, on avait un voyage qu'on avait déprogrammé, hein. Mais bon, ça, c'est pas grave. Hein. J'aurai toujours le jardin. Et c'est l'hiver, donc un peu plus de télé, un peu plus de Netflix. C'est quelques contraintes, mais on peut faire face à ça.
Véronique confie même qu'elle espère attraper le Covid pour ne pas avoir à se soucier du pass vaccinal.
Sur le plan sanitaire, près de 390 000 cas recensés lors des dernières 24 heures. La baisse se confirme en réanimation. 3 746 malades en soins intensifs. À noter que l'OMS recommande de lever les interdictions de voyage et le pass vaccinal pour entrer dans les pays. Faible mobilisation des antipasses. Ils étaient près de 38 000 hier à battre le pavé un peu partout en France, selon le ministère de l'Intérieur. 5 200 à Paris.
La Guadeloupe, toujours sous tension, de nombreux heurts ont éclaté ces dernières semaines en marge des manifestations anti-pass sanitaire et contre l'obligation vaccinale des soignants.
8 personnes ont été mises en examen, dont un policier. Et après une enquête de la justice, l'affaire semble en réalité bien plus complexe, d'après les premiers éléments révélés par Patrick Desjardins, procureur de la République de Guadeloupe.
Les éléments obtenus permettaient rapidement de faire apparaître la complicité, pour ne pas dire l'implication active d'un fonctionnaire de police. On était déjà dans la trahison. Le but était d'une part d'obtenir des sommes conséquences de la part de grands groupes en échange de la promesse de ne pas lancer les émeutiers contre leurs intérêts. L'autre visée était de bénéficier de subventions par le biais d'associations utilement créées à la faveur de négociations à venir avec l'État le cas échéant ou à la faveur en tout cas, et je pèse mes mots, de relations parfois troubles avec certains élus locaux.
Des propos recueillis par Amandine Ascension.
La politique à présent, Éric Zemmour appelle à l'union de la droite.
Le candidat à la présidentielle tenait hier soir un meeting à Cannes, l'occasion d'officialiser le ralliement de Gilbert Collard. Cette arrivée permet à l'ancien polémiste de renforcer sa stratégie de rassemblement des droites. Ce soutien pourrait en entraîner d'autres selon ses proches. Grand écart politique pour Valérie Pécresse. Après avoir reçu le soutien de Laurent Wauquiez vendredi, la candidate LR a reçu hier l'investiture des centristes et de l'UDI. Elle aura promis un programme de puissante réforme. Historique, voilà comment qualifie Gérald Darmanin les résultats des forces de l'ordre dans la lutte contre la drogue en 2021. Le ministre de l'Intérieur dresse le bilan ce matin dans le JDD. On apprend que les saisies de cannabis, de cocaïne et d'héroïne ont fortement augmenté.
À l'étranger, Clément, les fake news pullulent sur les réseaux sociaux au Mali.
Des posts qui annoncent des opérations victorieuses de Russes et des forces armées maliennes qui auraient conduit à neutraliser une centaine de djihadistes dans le pays. Mais William Molinier, il s'agit de fausses informations reprises par des avatars ou des comptes pro-russes pour légitimer auprès des populations locales la nouvelle alliance entre les mercenaires de Wagner et la junte malienne au pouvoir.
C'est une vidéo qui a été beaucoup relayée cette semaine sur les réseaux sociaux maliens, un pseudo-journal d'information avec à l'appui des photographies de drapeaux russes et de slogans anti-français. La fausse présentatrice a une voix de robot, sans doute réalisée grâce à un outil de traduction automatique, et elle égrène les soi-disant victoires russo-maliennes dans le pays.
Voici des vérités, reprises des plusieurs bases terroristes opérations russo-maliennes en Songo. Bilan en moins 107 terroristes neutralisés et une cinquantaine de prisonniers.
Évidemment, c'est une fausse information qu'un haut gradé français attribue à de la propagande russe. La junte, explique-t-il, a besoin d'une victoire opérationnelle avec les mercenaires de Wagner pour asseoir sa légitimité, d'où l'apparition et la multiplication de ce type de contenu. Et quand bien même ces fake news sont très grossières, elles alimentent un sentiment anti-français auprès de populations déjà convaincues. À de nombreuses reprises, les services de renseignement ont détaillé et alerté sur la manipulation informationnelle de la Russie en Afrique francophone. Selon nos informations, les autorités françaises réfléchissent elles aussi à une riposte dans les médias maliens à travers, par exemple, le recours à des spots publicitaires.
Rendez-vous à notre prochain bulletin. À bientôt.
Voilà, William Molinier du service police justice d'Europe 1. Et puis on termine avec le sport. Première de Lionel Messi ce soir sous les couleurs parisiennes en 2022.
L'Argentin remis du Covid sera présent pour affronter au Parc des Princes Reims, Cyril de la Morinerie.
Oui, après avoir joué ses premières minutes avec le maillot parisien à Reims l'été dernier, Lionel Messi va disputer ce soir contre les Rémois son premier match de l'année. L'Argentin, qui avait révélé avoir des symptômes après avoir contracté le Covid, va mieux. Il s'est entraîné avec le groupe. Le septuple Ballon d'Or est à la totale disposition du PSG puisqu'il n'ira pas rejoindre la sélection argentine à la fin du mois. À moins de 3 semaines du choc face au Real Madrid, le retour de Lionel Messi est une très bonne nouvelle, se réjouit l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino.
Je suis content d'avoir Lionel Messi dans l'équipe. Pas seulement au niveau de ses performances, mais surtout pour ce qu'il apporte au groupe. Il a 7 ballons d'or. C'est un privilège de l'avoir parmi nous.
Autre bonne nouvelle, Kylian Mbappé, qui souffrait à l'adducteur gauche, s'est entraîné avec le reste du groupe. Même si le champion du monde va mieux, l'entraîneur parisien n'a pas voulu confirmer ou non sa participation pour le match de ce soir. Une chose est sûre, Neymar, blessé à la cheville gauche, reprendra l'entraînement la semaine prochaine. Ce qui veut dire encore une fois que l'on ne verra pas ce soir les 3 stars évoluer ensemble. La triplette magique Mbappé, Messi et Neymar n'a été alignée qu'à 8 reprises cette saison, soit moins d'un tiers des matchs du PSG.
A noter hier la victoire de Marseille 2-0 sur la pelouse de Lens et victoire également sur le même score de Brest face à Lille.
Et ben voilà, merci beaucoup, c'était le journal de Clément Gouy. À tout à l'heure Clément. Alors la météo, mademoiselle Darmon, à peu près les mêmes températures qu'hier ?
Oui, aucune surprise. Les minimales qui restent généralement positives, légèrement, sous les nuages de la moitié nord, avec 0 à 3 degrés dans l'intérieur des terres. Au sud, les gelées qui sont à nouveau généralisées, avec moins 6 à moins 2 dans les terres. 5 degrés à Blois, nous dit Véronique sur Facebook.
Et oui.
5 à Reims, nous signale Flavienne. Moins 1 à Voiron pour Antoine. Moins 2 à Ruy dans l'Indre pour Sophie. Merci évidemment de nous suivre.
Nos petits radars,
tous.
Nos petits radars météo, ça.
Exactement, et à tous les autres aussi. Et Météo France qui nous annonce moins 7 à Rodez, moins 5 à Manos, moins 4 à Saint-Giron, moins 3 à Carcassonne, moins 2 à Besançon et à Gap, moins 1 à Montluçon et Angoulême, 0 à Marseille, 1 à Charleville, 2 à Évreux, 2 à Strasbourg, 3 à Caen et Saint-Brieuc, 4 degrés à Nice, les maximales entre 3 et 6 en général. Sur le nord-ouest, 6 à 9 de la Bretagne au sud-ouest et 11 à 13 près de la Méditerranée.
Même ciel qu'hier ?
Absolument. En fin de nuit, on a quelques brumes et des brouillards qui se sont formés localement sur le nord. Ils se dissipent dans la matinée. Le ciel qui va rester très gris. Les reliefs des Vosges et du Jura qui émergent de cette couche nuageuse très épaisse. Les vallées de la Saône et du Rhône qui restent prises dans la grisaille. Côté Atlantique, on a quand même de larges éclaircies qui vont apparaître sur les côtes uniquement du Finistère et de la Vendée. Et puis de la Nouvelle-Aquitaine au sud du Massif central jusqu'en PACA. Très, très beau temps.
À tout à l'heure, Valérie. À 7h10, on partira en balade avec Vanessa et Marion. Ce sera ce matin en Camargue et puis on ira sur la belle île de la Réunion. Mais tout de suite, Philippe Legrand. Là, tous les dimanches matin, un invité des archives. On regarde dans le rétro une date, une histoire. Ce matin, les confidences de l'ex-footballeur Franck Leboeuf. Bonjour Philippe Legrand.
Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Retour en 2016, direction les États-Unis. Bonjour Franck Leboeuf.
Bonjour Philippe.
Footballeur, champion du monde, vous êtes ce sportif de haut niveau qui va de l'avant. C'est comme cela que le défenseur sur le terrain est perçu par ses camarades de jeu et par le public. Placement, anticipation, relance et remontée de balle sont aussi vos qualités au cœur des matchs qui se jouent devant des millions de téléspectateurs. Franck Leboeuf, votre palmarès est lumineux. 10 titres en 17 ans de carrière, plus de 110 buts. Les victoires vous stimulent autant que les échecs vous encouragent. Votre livre « Y croire pour soi » en est la preuve. Franck Leboeuf, le sportif que vous êtes, est devenu aussi auteur, acteur, producteur et observateur attentif de notre monde. Ce matin, vous avez choisi de revenir sur le 8 novembre 2016. Donald Trump est élu, le 45e président des États-Unis prend la parole. Ses premiers mots au micro d'Europe 1.
Thank you.
Merci.
Thank you very much.
Merci beaucoup. Je suis désolé de vous faire attendre, c'était un peu compliqué. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Ce sont ces mots aussi. Donald Trump est donc le 45e président des États-Unis. Surprise, étonnement. L'Amérique, on l'entend là et ses supporters applaudissent. En tout cas, une grande partie de l'Amérique applaudit. Et vous, vous étiez où à ce moment-là, vous qui avez choisi ce 8 novembre 2016 ?
J'étais en France, mais il faut savoir que j'ai vécu 7 ans aux États-Unis. Et quand Barack Obama est élu, je suis à Los Angeles et je suis parmi une communauté noire de Los Angeles. J'habite pas très très loin de cette communauté et donc je vois l'espoir américain et je ressens tout ça qui renaît, quelque chose d'énorme. Et quand Trump est élu, je suis l'été d'avant à New York où je passe à côté de la Trump Tower à New York sur la 5e avenue. Et enfin, tout le monde était estomaqué quand il est élu. En fait, c'est tellement pas prévu. Tout le monde attend Hillary Clinton. Les sondages la donnent vainqueur. Et c'est vrai que voilà, c'est une grosse claque dans la tête du monde. Alors économiquement et à l'interne, ça s'est très, très bien passé. Mais sa diplomatie, sa façon de faire, voilà, ça, je pense que pour moi, ça a été 4 ans de difficile à le voir à la télévision.
À le voir à la télévision, mais vous étiez sur place plusieurs fois, et évidemment avant, comme vous l'avez dit, vous avez vécu, vous y allez, vous faites des allers-retours réguliers, vous êtes ce Français des États-Unis, Franck Leboeuf. Est-ce que vous avez croisé un jour sa route ? Parce qu'il connaît au fond Los Angeles, hein. Oui. C'est, j'allais dire, un endroit dans lequel il va souvent, parce que derrière, il y a l'homme d'affaires, bien sûr, mais il y a aussi l'homme de la télévision, celui qui harangue les foules à la télévision et qui a plusieurs fois fait l'objet de ces rendez-vous télé extrêmement populaires.
Non, je suis assez content de l'avoir, de ne pas l'avoir rencontré, de l'avoir évité. Non, c'est pas quelqu'un qui m'aurait plu à vouloir. À
qui défend vos valeurs.
Qui défend mes valeurs, plein de choses, enfin les femmes et notamment, et plein d'autres choses. Quelqu'un qui ne connaît même pas la géographie du monde et qui se retrouve président d'un pays, ça, pour moi, c'est très choquant. Mais en fait, non, je ne l'ai pas rencontré. Moi, je travaille pour une chaîne américaine qui s'appelle ESPN et j'ai beaucoup de valeurs. J'aime la positivité des Américains. J'aime l'espoir continu des Américains, mais là, j'avoue franchement que c'était très, très compliqué. Et encore une fois, sur sa politique, beaucoup d'Américains me racontent que tout va bien et que ça n'a jamais été aussi bien depuis que Trump est passé. Ok, je veux bien le croire, mais...
Mais l'image qu'il renvoie, c'est ce que
vous dites. En géopolitique, c'était une catastrophe, quoi. C'est ça. Et ça a fait peur parce qu'on parle d'une très grande nation. Et je pense que ce jour-là, ceux qui aimaient un petit peu regarder ce qui se passe dans le monde ont eu peur. Jour-là.
On vous découvre là, Franck Leboeuf au micro d'Europe 1, observateur, c'est ce que je disais, du monde, mais aussi prêt à rentrer dans une forme de débat. Observateur, mais aussi à travers votre nouveau livre, Y croire pour soi, aux éditions Le Courrier du Livre, observateur et coach. Car ce livre, finalement, c'est le livre que vous nous offrez et que, dans lequel vous vous dévoilez aussi coach de chacun d'entre nous.
Oui, coach, mais compagnon de route. En fait, on se pose la question, on observe et on s'aperçoit que à peu près 70 à 80% de la population française n'est pas heureuse de ce qu'elle fait dans sa vie quotidienne. On passe 70% de notre temps au travail. Et la plupart des gens ne l'aiment pas. Donc, il est temps de réagir. Alors, est-ce qu'on peut ? On a des prêts, on a des enfants, on a des obligations, le que va-t-on dire et tout ça. Et ça, je me bats contre ça parce qu'on a une vie. Qu'est-ce qu'on fait de sa vie ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Est-ce qu'on est heureux ? T'es pas heureux ? Pose-toi les bonnes questions. Ouvre mon livre. T'es heureux ? Non, c'est pas la peine. T'as pas besoin d'ouvrir mon livre. Mais quand même, ça va te faire du bien.
Il y a des conseils. Il faut dire qu'à chaque chapitre, il y a le conseil et puis il y a la formule que vous ajoutez à toi de jouer. Mmh. Au fond, vous évoquez différentes situations. Allez, on peut en prendre quelques-unes. Pourquoi te réveiller chaque matin qui ouvre votre livre à toi de jouer ? On pose cette question-là. Vous la posez au lecteur.
Mais parce qu'il faut être concret. Quand on se lève, les premières pensées du matin, elles sont ou positives ou négatives. Quelquefois, on n'a pas envie de sortir de son lit. Mais si ça arrive tout le temps, c'est qu'il y a peut-être un gros, gros problème. Et encore une fois, prenez votre... Je crois que moi, une phrase m'a fait réagir dans ma vie. Elle était après ma carrière. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? J'avais 37, 38 ans. Et on m'a dit, tu sais, on a deux vies. Et la deuxième commence quand on s'aperçoit qu'on n'en a qu'une. Mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire que ça doit faire... On doit savoir qu'il va y avoir une fin. Et la fin doit vous pousser à vous surpasser et à vous dire qu'est-ce que j'ai envie pour moi, pour mon bonheur, sans faire du mal aux autres, mais pour trouver ma place dans cette société où je vais être enfin pouvoir être heureux. Et c'est ça le vrai questionnement pour moi. C'est juste le bonheur des gens, être positif.
Franck Leboeuf, on vous applaudit aussi hein, quand vous rentrez sur un terrain dans un match. Ouais. Évidemment, le stade est plein et puis derrière les millions de téléspectateurs, des applaudissements. Et maintenant, vous montez sur scène à nouveau les applaudissements, les encouragements du public. Vous les avez trouvés, ces encouragements.
C'est un palliatif.
Mais vous les avez provoqués aussi.
Oui. J'ai travaillé. Quand on se pose la question comment je suis devenu comédien, je suis allé sur scène, j'ai appris pendant un an et demi, à raison de 4 heures par jour sur scène aux États-Unis, à l'East Strasbourg, et j'ai travaillé, j'ai appris mon métier de comédien. Donc je suis autant légitime que les autres, je veux rassurer tout le monde, surtout ceux qui ne travaillent pas et qui me critiquent. Mais c'est vraiment une envie. Je ne fais pas les choses comme ça et je me proclame pas comédien si je n'ai pas eu le sentiment d'avoir travaillé pour ça. Donc j'ai appris. Maintenant, je suis à plus de 1100 fois sur scène.
Vous partez en tournée. On va vous croiser.
En France, en Suisse, sur la pièce Drôle de campagne. Et vous allez sur mon Instagram ou sur mon Facebook et vous aurez toutes les dates de toutes les villes pour cette saison.
Drôle de campagne, le titre est là, mais on est à la fois on comprend cela évidemment dans une actualité, mais aussi dans l'humour.
La comédie, on a besoin de rire. Certains sont venus nous voir en disant votre pièce, ça devrait être remboursée par la sécurité sociale, ça fait tellement du bien. On oublie les soucis pendant une heure et demie. C'est ça la comédie, c'est faire oublier le quotidien aux gens qui n'est pas souvent très très rose.
Merci beaucoup Franck Leboeuf d'être venu sur Europe 1 avec vous. On a retrouvé cette Amérique du 8 novembre 2016. Vous avez choisi cette date, la victoire de ce candidat Donald Trump que l'on n'attendait pas, que l'Amérique a été surprise de voir à la Maison Blanche et le reste du monde. Votre livre Y croire pour soi, votre pièce de théâtre en tournée, Drôle de campagne. Et on se quitte avec, au fond, c'est ce que vous nous avez dit ce matin, ne passez pas à côté de l'essentiel avec ce titre qui est dans votre playlist Dommage, interprété par Big Flo et Oli. À bientôt.
À très bientôt.
Louis prend son bus comme tous les matins. Il croise cette même fille avec son doux parfum. Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours. Ce qu'il ressent au fond de lui, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais lui, il est timide et elle est si belle. Il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son siège. Une fois, elle lui a souri quand elle est descendue. Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revue. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Yasmine a une belle voix. Elle sait qu'elle est douée. Dans la tempête de sa vie, la musique est sa bouée. Face à ses mélodies, le monde est à ses pieds. Mais son père lui répétait, trouve-toi un vrai métier. Parfois elle s'imagine sous la lumière des projecteurs, sur la scène à recevoir les compliments et les jets de fleurs. Mais Yasmine est rouillée, coincée dans la routine. Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Diego est affalé au fond du canapé. Il engueule son petit frère quand il passe devant la télé. Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis.
Dommage. Big Flo et Oli, c'était le choix de l'invité de Philippe Legrand, Franck Leboeuf ce matin.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
7h-10, l'essentiel de l'info de ce dimanche. Clément Guise.
Faible mobilisation des antipasses. Ils étaient près de 38 000 hier à battre le pavé un peu partout en France. Selon le ministère de l'Intérieur, 5 200 à Paris. Sur le plan sanitaire, près de 390 000 cas recensés lors des dernières 24 heures. La baisse se confirme en réanimation. 3 746 malades en soins intensifs. Anne Hidalgo ira jusqu'au bout. La candidate socialiste au plus bas dans les sondages l'a réaffirmé hier après-midi lors de son meeting à Aubervilliers. Éric Zemmour était hier à Cannes, l'occasion d'officialiser le ralliement de Gilbert Collard. Cette arrivée permet à l'ancien polémiste de renforcer sa stratégie de rassemblement des droites. Et puis un mot de Ligue 1, victoire hier soir de l'OM 2-0 sur la pelouse de Lens. Victoire également sur le même score de Brest face à Lille.
Merci Clément. Allez, dans deux minutes, on fait le plein d'idées à week-end avec Vanessa et Marion, direction la Camargue, puis la Réunion. C'est votre matinal week-end sur Europe 1. On parle de vous.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
La balade du dimanche, elles sont là, Marion Sauveur, Vanessa Zaza, bonjour mesdames.
Bonjour.
Vanessa, on part en Camargue avec vous ce matin, c'est bien sûr une région idéale en cette saison.
Bah oui.
Pourquoi ?
Bon, tout simplement parce que en plein hiver,
il n'y a pas de moustiques.
Alors, il n'y a pas de moustiques, alors c'est vrai, mais ça, dès le mois d'octobre, il n'y a pas de moustiques. Mmh. Mais là, en ce moment, janvier, février, c'est la parade nuptiale des flamants roses. Oh. Alors ça, il faut aller l'observer. On va aller le faire au parc ornithologique de Pont-de-Gault. Mmh. Ce spectacle, il est magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. On y va, on ferme les yeux. On imagine des bandes de 10, 20, 30, 60 individus qui dansent ensemble. La la chorégraphie est très élaborée. Ils dressent tous leurs coups, tournent mécaniquement la tête de gauche à droite, un peu comme un ressort. Après, ils fixent leur cou à l'horizontale, ils entament une marche rapide à la militaire, bombent le torse, et c'est là qu'ils déploient leurs ailes et montrent leur couleur. Parce que c'est la couleur qui est un signe de bonne santé. Et ça, c'est leur technique de drague. Voilà, et après, petite courbette, tapette dans l'eau avec les pattes. Et le final, avec une posture de yoga, ils s'étirent la patte et l'aile simultanément. Voilà, ça, c'est un cycle qu'il répète à chaque fois. Et je mettrai la vidéo « Mets des flamants roses », Thierry, sur les réseaux sociaux.
Vous êtes forte en flamants roses, Vanessa. on peut également participer à des visites guidées, Vanessa.
Alors, dans le parc, eh ben non. Et en fait, c'est beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce qu'on est en autonomie. Dans les sentiers, on est au milieu des marais, des roubines. Et on vous donne quand même un petit jeu de piste sous forme de quiz qui est hyper fouillé, pédagogique. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'à chaque détour du parc, vous croisez des ornithologues qui sont toujours là pour partager leurs connaissances. Et puis, les dernières infos scientifiques, il paraît que les flamands se maquillent. Et oui. On écoute Frédéric Lamouroux, le directeur du parc. C'est très sérieux.
Bien sûr.
Vous savez, les oiseaux vont sécréter un liquide, une graisse en fait, qui est située au niveau du croupion. Et ils vont, avec le bec, prendre cette graisse, ils vont se lisser les plumes avec, ils vont s'enduire les plumes de cette graisse pour les rendre les plus imperméables. Mais chez les flamands, avec cette graisse, on a un liquide qui est très chargé en carotène, donc très coloré. Et en fait, pendant la période amoureuse, les flamands se graissent les plumes, mais aussi se les colorent avec ce liquide-là. Et on s'est rendu compte que les individus qui allaient le plus souvent chercher de la graisse et donc du liquide étaient ceux qui étaient parmi les plus colorés. Plus on est coloré, plus on est attractif.
C'est étonnant, en tout cas. Attractif, la couleur. C'est ce qu'il reste à faire. Voilà. Et alors, d'ailleurs, ce sont les couleurs et les lumières qui font évidemment le charme de la Camargue. Il n'y a pas que les flamants roses, hein. Il y a les taureaux, évidemment, il y a les fameux chevaux,
les chevaux
blancs. Vous pouvez partir justement balader dans les marais ou sur les plages aussi. Il faut s'adresser aux éleveurs et aux manadiers qui organisent ces sorties. Il y en a un que j'adore, c'est Olivier Théroux, qui lui vous emmène sur la réserve des impériaux à l'étang du Vacarès. C'est très beau, c'est très sauvage. Mmh. Et lui, il est à la tête des cabanes de Cacharel. Et ça, c'est un domaine mythique qui a été créé en 1930.
En tout cas, une faune, des paysages, des couleurs qui, bien sûr, ont inspiré des artistes. Hein,
ouais, des photographes, des peintres. Van Gogh, par exemple, lui, c'était la mer qui l'attirait parce qu'elle était changeante comme la couleur des maquereaux. Il y a les barres colorées qui ressemblent à des fleurs pour lui aussi. Les cabanes de gardiens, toutes blanches avec des toits, mais pas de chaume, de salicorne. Ouais. Voilà, donc partez sur les traces de ces tableaux. Et puis, là, mon adresse, je vous la donne. Ouais. C'est le Mas du Couvain. Jean-Luc Marigny, il tient cette maison, mais il tient aussi les fourneaux. Pour vous préparer, la gardienne de taureaux, il est extraordinaire, c'est une belle rencontre.
Parfait, Marion à vous. Alors là, on fait quelques kilomètres et vous nous emmenez jusqu'à l'île de la Réunion.
Oui, pour déguster un fruit exotique, l'un des produits phares de l'île, c'est l'ananas. Mais pas n'importe quel ananas, hein. L'ananas Victoria. Nous en avons un studio qui nous vient tout droit du champ de Sabine Dijoux dans les Hauts de Sainte-Suzanne, c'est au nord-est de l'île. Je vous laisse le déguster, regardez comme il est beau.
Heureusement qu'il y a les croquer,
attendez. On aurait plein
les après, moi, je vais me faire des affaires.
C'est en ce moment que poussent les meilleurs ananas en plein hiver. Ah ouais. À La Réunion, c'est l'été. C'est ce qui donne un fruit donc bien sucré, légèrement acidulé, juteux. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'adore.
Très bon.
Cette jolie chair, regardez, tellement tendre qu'on peut même croquer son cœur. Et on ne laisse que cette couronne de feuilles et la peau tirée, effectivement, attention aux aftes.
Bien sûr. Ça a toujours poussé à La Réunion.
Un gros souci tiré sur les arbres.
Non. L'ananas vient d'Amérique du Sud. Il a été introduit sur l'île de La Réunion en 1668. Mmh. Il s'est très bien acclimaté, comme vous le voyez, au climat humide, aux terres volcaniques. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle un ananas Victoria ?
Pas du tout.
Ah, la reine Victoria.
Oui, bien joué. La reine d'Angleterre qui raffolait de cet ananas.
D'accord. Puis on faisait venir.
Alors, l'ananas ne pousse pas sur un arbre, mais en pleine terre, dans des champs d'ananas. L'agricultrice Sabine Dijoux nous raconte comment ça se passe.
Quand vous prenez l'ananas, à l'extrémité, ça ressemble aux feuilles de la plante. C'est vrai que l'ananas, c'est une plante, ça ressemble plus à un cactus parce que c'est composé de la partie lisse au milieu et les deux extrémités, il y a des épines. Et après, quand la plante va être assez grosse, c'est-à-dire au bout d'un an, Il y a une tige qui va sortir avec la fleur, une petite fleur d'abord, et puis après ça va donner des fleurons bleus autour. C'est à ce moment-là que les abeilles interviennent. Et après, c'est ça grossit, puis c'est l'ananas qui va sortir au bout de 4-5 mois.
On y est avec l'accent, j'adore.
Mais oui.
Et qu'est-ce qu'on fait alors? On fait petite salade de fruits avec un ananas?
Alors ça, c'est comme ça, effectivement, qu'on mange en ce moment à La Réunion. Ananas, mangue verte, papaye verte, jimalak, qui est un fruit très juteux, un petit peu en forme de pomme ou de poire.
Ouais.
Et kombawa et piment, figurez-vous. Mmh. Alors moi, je vous propose... avec nos températures hivernales, de réaliser une pavlova.
Oui.
C'est une meringue nappée de chantilly recouverte de fruits de saison, comme celle de la meringuette.
C'est
à Paris qui propose.
C'est ça à faire aussi.
Oui. Mais oui, qui propose à partir de mardi cette pavlova qui nous fait voyager avec une crème fouettée coco.
Oui.
Et par-dessus, l'ananas, mangue et kiwi, c'est la Marie Galante.
À la nouvelle création. Alors.
Voilà, la meringuée à Paris et à la maison. Si vous n'avez pas la meringuée à côté de chez vous, vous pouvez réaliser votre propre pavlova.
D'accord.
Voilà, une meringue française. On monte les blancs en neige avec au fur et à mesure du sucre. On la poche comme un fond de tarte. On rajoute par-dessus une chantilly, donc une crème fouettée bien froide, 30% de matière grasse maximum. On termine en posant l'ananas coupé en morceaux.
Oui.
Ça, c'est une super idée de dessert, n'est-ce pas Thierry, pour
ce
midi.
Voilà, petit... Je vous laisse parler.
Il m'a piqué
aérien, tout en rondeur et gourmand.
Parlez-nous du salon de la gastronomie.
Oui, ça se passe la semaine prochaine au Parc des Expositions à Paris.
C'est Babette de Rosière.
Voilà,
on l'embrasse.
Salon de la gastronomie des Outre-mer.
C'est vendredi prochain.
Vendredi prochain.
Ça, c'est un bon rendez-vous. Allez, merci à vous. Bon dimanche, mesdemoiselles. Et bon appétit. Hein.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Merci d'écouter Europe 1. Il est 7h.
Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral.
Et soyez les bienvenus, bien sûr, si vous nous rejoignez. Merci à vous. Toute l'info à 7h, c'est Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Ambiance tendue dans les manifestations anti-pass vaccinales. Illustration à Perpignan dans ce journal.
Replacer Marine Le Pen au cœur de la présidentielle, c'est la stratégie d'Emmanuel Macron. Louis Dragnel nous dira si c'est efficace ou pas.
Et puis 30 ans après, le crash du Mont-Saint-Odile, une cérémonie pour ne pas tomber dans l'oubli aujourd'hui.
Dans la prochaine demi-heure, Jean-Baptiste Lemoyne, ministre des délégué chargé du tourisme et des PME sera mon invité. On va parler d'abord des PME et des indépendants. Et puis à 8h moins le quart, on le retrouvera pour parler des vacances. Et puis Garo, gaffe dans les films, c'est avec Mathieu Alterman à 7h23. Mais tout d'abord, la tendance météo avec vous Valérie Darmon.
Eh bien, de Brest à Strasbourg, jusque Lille, d'Angoulême à Lyon, des nuages et encore des nuages. Et au sud, du ciel bleu et des gelées matinales.
Le détail météo dans 7 minutes. Fréquentation en baisse dans les manifestations anti-pass vaccinal.
Moins de 40 000 personnes ont défilé en France alors que le pass arrive demain. Moins de monde, mais des moments de forte tension. Écoutez, la scène se déroule à Perpignan.
Oh, tu l'as voté le pass ! Tu l'as voté le pass ! Tu l'as voté le pass ! Oh, je parle, moi !
Alors, ces manifestants s'adressent à Romain Gros, député La République En Marche des Pyrénées-Orientales et qui donc a voté la loi sur le pass vaccinal. L'élu vivement pris à partie devant sa permanence. Il dit avoir été frappé au menton. Les violences contre les élus ont enregistré une forte hausse. 300 plaintes pour menaces de mort déposées depuis juillet, 60 rien que depuis le début de cette année.
La sécurité, justement. On en parle ce matin dans les colonnes du JDD.
Oui, c'est l'un des enjeux de l'élection présidentielle et c'est le talon d'Achille d'Emmanuel Macron, de ce qu'en disent ses adversaires. Que ce soit Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, tous attaquent son bilan régalien. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'en défend dans le JDD ce matin. Louis Dragnel, il lance des flèches dans une seule direction, Marine Le Pen.
Absolument, il le dit explicitement, le problème n'est pas Valérie Pécresse, mais Marine Le Pen. Selon lui, la plus dangereuse et la plus susceptible de se qualifier au second tour de la présidentielle. Au-delà du fond, le ministre de l'Intérieur cherche ainsi à replacer Marine Le Pen au centre du jeu de la présidentielle, renouer avec le pari initial d'Emmanuel Macron de se retrouver face à elle au deuxième tour. Vous savez, c'est vieux comme le monde. Quand on cherche à gagner un combat, mieux vaut choisir son adversaire. Et Emmanuel Macron est convaincu qu'il est presque assuré de gagner face à la fille de Jean-Marie Le Pen. Ensuite, Gérald Darmanin défend son bilan face aux attaques d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen et de Valérie Pécresse. Plus 10 000 policiers et gendarmes en 5 ans, 1 900 policiers supplémentaires pour le renseignement territorial, 37 attentats déjoués. En revanche, aucune évocation du bilan migratoire du quinquennat, dont les résultats publiés cette semaine sont mauvais. Pour terminer, depuis son arrivée place Beauvau, Gérald Darmanin permet à Emmanuel Macron d'être plus crédible sur le régalien. Il devrait d'ailleurs multiplier les sorties pendant la campagne pour essayer de montrer à la droite que le chef de l'État n'est pas laxiste.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Éric Zemmour, lui, a appelé à l'union des droites hier. Il était en meeting à Cannes, entouré de ses nouveaux partenaires de campagne, Jérôme Rivière, Guillaume Pelletier et Gilbert Collard, qui sont tous montés à la tribune. Anne Hidalgo, elle était à Aubervilliers, où elle a encore promis de ne pas renoncer.
Alors là, on a vu deux offres politiques bien distinctes, mais pour un certain nombre de Français, le choix n'est pas encore totalement fait.
Non, ce qui pourrait bien faire grimper davantage l'abstention chez les jeunes, notamment, pour inciter les primo-votants à s'inscrire sur les listes électorales. C'est Facebook qui s'organise et pour capter les jeunes, on utilise leur méthode passée par WhatsApp. Aurélien Fleureau, c'est comme un guide.
Oui, puisqu'en 2017, 51% des 25-29 ans étaient mal inscrits, c'est-à-dire que leur bureau de vote ne correspondait pas à leur lieu de résidence. Et cela multiplie par 3 le risque de s'abstenir, selon l'ONG Avoté, qui a donc sollicité Meta France. Et l'idée, c'est de vérifier en quelques instants si vous êtes correctement inscrit. Et si ce n'est pas le cas, quelles sont les démarches à effectuer ? En passant par WhatsApp, la messagerie instantanée utilisée par 36 millions de Français chaque mois. Explication avec Elisa Bory-Estrade, responsable des affaires publiques du groupe Meta en France.
Les utilisateurs vont pouvoir envoyer bonjour à un numéro de téléphone et ça va leur permettre d'initier une conversation pour connaître en quelques clics leur statut électoral. Donc en fait, l'idée c'est de concentrer toutes les informations utiles en un même lieu et de pouvoir effectivement les guider sur tout ce processus d'inscription ou de réinscription ou voilà, de modification d'inscription.
Meta précise ne pas avoir accès aux données des utilisateurs qui auront cette année jusqu'au 4 mars pour s'inscrire correctement sur les listes électorales.
Les précisions d'Aurélien Fleureau pour Europe 1.
C'est l'une des pires catastrophes aériennes, le crash du Mont Saint-Odile, c'était il y a 30 ans.
Oui, le 20 janvier 92, 87 personnes mouraient dans ce crash en Alsace. Une tragédie impossible à oublier pour les familles des victimes et pour les 9 survivants. La douleur est très vive. Écoutez ce reportage de Mélina Fachin.
Il y a 30 ans, Bernard Lomont perdait son frère dans le crash du Mont Saint-Odile. Président de l'association ECHO qui regroupe les familles des victimes et les rescapés, le souvenir de ce 20 janvier 1992 est resté intact.
C'est notre 11 septembre à nous. On se souvient exactement en quelles circonstances on a appris le crash. Personne n'a oublié et tout le monde considère que quand on parle de 30 ans, c'était hier.
Et certaines douleurs sont toujours très vives, notamment le fait que ce soir-là, les secours ont mis énormément de temps à arriver sur place.
Il a fallu plus de 4 heures pour que le premier militaire arrive sur les lieux, averti par des journalistes et des forestiers. Et on comprendra et on l'admettra d'autant moins qu'aujourd'hui, on parle de 9 rescapés. Mais il y avait 6 personnes de plus qui ont survécu au crash et qui sont décédées dans l'intervalle. Et 2 d'entre elles auraient pu être sauvées si les secours étaient intervenus 2 heures plus tôt. C'est impossible à digérer.
Les familles auront dû attendre 14 ans pour qu'un procès puisse avoir lieu. Au final, la justice n'a désigné aucun coupable et n'a versé aucune indemnité aux proches. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
48 heures que ses proches étaient sans nouvelles, l'aventurier Jean-Jacques Savin a été retrouvé mort hier soir dans son canot. À 75 ans, il tentait de traverser l'Atlantique à la rame.
Les sports à présent, les Nike. D'abord la Ligue 1, bonne opération pour Marseille.
Qui remonte à la 2e place du championnat après son succès 2-0 à Lens hier soir. Brest fait aussi une bonne affaire avec une victoire 2-0 là aussi contre Lille, le champion de France. Ce soir sur Europe 1, le match à suivre, c'est PSG Reims.
Et ce sera au tour bien sûr de Lionel Rousseau qui recevait hier soir Arsène Wenger.
Oui, pour évoquer notamment cette idée très controversée d'une Coupe du Monde tous les 2 ans. L'ancien coach d'Arsenal ne voit pas du tout où est le problème d'un calendrier ultra chargé. Et la meilleure preuve pour lui, la longévité d'un certain Cristiano Ronaldo.
Moi, j'ai joué contre Ronaldo en 2003 à Manchester United. Nous sommes aujourd'hui en 2022.
Et il est toujours là.
Non seulement il est toujours là, mais pendant ses 19 ans, il a joué tous les ans 70 matchs, Ronaldo.
Ouais.
En gros, qu'est-ce qui a augmenté ? C'est la pression publique est peut-être plus forte à travers les réseaux sociaux. Toutes les actions sont décortiquées et les responsabilités commerciales sont plus grandes. Mais la partie football elle-même ne tue pas.
Arsène Wenger qui désormais travaille pour la FIFA en tant que directeur du développement du football, ce qui explique cela.
Merci beaucoup Lénaïque, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Alors, la météo de votre dimanche, Valérie Darmon. On regarde d'abord le ciel.
Effectivement, avec du gris entre la Bretagne, les Hauts-de-France, la Vendée, le nord de l'Auvergne, les plaines et les vallées de Rhône-Alpes jusqu'au Grand Est, en passant par le bassin parisien, la Bourgogne et le Val-de-Loire. là, c'est le gris qui va dominer toute la journée, excepté quelques éclaircies qui vont réapparaître timidement sur le nord-ouest, uniquement sur les côtes. Pas question de voir le soleil, ni même de l'entreapercevoir ce dimanche sur les régions que je viens de citer. En revanche, il y a beaucoup moins de brouillard qu'hier. Ouais. Ils sont surtout beaucoup moins givrants.
Bon, et le beau temps, bien sûr, c'est dans le sud.
Ben exactement, comme souvent, avec cet anticyclone qui est de toute façon figé, qui nous garantit du calme pour tout le monde. Mais c'est vrai que le soleil, il ne se montre qu'entre les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, les régions méditerranéennes, les hauteurs du Morvan, le Jura et toute la Nouvelle-Aquitaine.
Allez, on regarde les températures.
Ce matin, entre moins 6 dans les vallées du Massif central jusqu'à 0 près de la Méditerranée. Beaucoup de gelées généralisées dans l'arrière-pays provençal. Et puis les maximales qui restent 2 degrés sous les moyennes, exactement comme hier.
Merci beaucoup Valérie. On fait bien sûr un nouveau point à 7h30. À suivre l'interview actuelle, Jean-Baptiste Lemoine, le ministre des PME et du Tourisme, va nous rejoindre. On va parler d'abord des aides, des PME, des discothèques. Et puis, il restera avec nous ce matin pour un « Ça vous concerne » spécial de tourisme. À 8h moins le quart. Ne quittez pas, ça se passe sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Invité spécial de votre matinale week-end à 7h11, le ministre des PME, du Tourisme, des Français de l'étranger. Bonjour Jean-Baptiste Lemoine.
Bonjour Thierry Dagiral.
Merci d'être en studio ce matin avec nous. On vous retrouvera à 8h moins le quart pour un « Ça vous concerne » spécial tourisme à quelques jours, bien sûr, des vacances de février. Là, je vais m'adresser au ministre des PME que vous êtes avec un allègement, une levée des mesures sanitaires annoncées donc jeudi soir par Jean Castex. Il y a 15 jours, c'était tous aux abris et maintenant, bien, c'est la grande libération. Pourquoi ce changement soudain, si rapide, un peu étrange, on peut dire ?
Il y a quelque chose qui change la donne, c'est le pass vaccinal. Ouais. Il entre en vigueur demain, lundi. Et c'est ça qui va permettre justement de reprendre à nouveau des activités normales. Et souvenez-vous, l'été dernier, le pass sanitaire aussi, en août, c'est ce qui nous avait permis de faire face à une vague, de garder ouvert un certain nombre de commerces. Et bien là, c'est pareil. Donc, la loi, elle est passée. Ouais. Et bien, on a donné de la visibilité. 2 février, 16 février.
Honnêtement, rien à voir avec l'entrée en campagne imminente d'Emmanuel Macron. Hein.
Non, franchement, je vais vous dire. Je participe au Conseil de défense depuis suffisamment longtemps pour vous dire comment ça se passe. On est là en regardant des chiffres, en regardant l'évolution de l'épidémie en France, en Europe, dans le monde, en regardant son comportement et l'efficacité des mesures de freinage qu'on met en place. Et c'est ça qui nous décide. Franchement, il n'y aurait pas de plus mauvais pari que de jouer avec la santé des Français. Depuis le début, notre boussole, c'est la protection des Français.
Jean-Baptiste Lemoine, en tout cas, bonne nouvelle, notamment pour les patrons de PME, avec la fin de l'obligation du télétravail le 2 février, donc dans une semaine et demie. Certains disent finalement, c'est encore long. Le télétravail obligatoire, ça a été vraiment une folie douce. C'est compliqué à appliquer pour une petite PME.
Non. Allez, dit dodo et puis on passe à la recommandation et non plus à l'obligation. On a été très pragmatique.
Mais ça a freiné les boîtes quand même.
On a été très pragmatique. Il y a des activités qui ne sont pas télétravaillables. Je m'en suis entretenu avec le président de la CPME, François Asselin. Il y en a d'autres pour lesquelles ça peut s'organiser. Et moi, j'ai toujours fonctionné sur la confiance avec les chefs d'entreprise. Je sais qu'ils sont organisés dans le dialogue avec leurs salariés. Mais c'est vrai que le télétravail, il a eu un impact aussi sur un certain nombre de commerces, de commerçants. Je pense à nos amis restaurateurs notamment. Ouais. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on est venu aussi en soutien avec des aides dédiées pour faire face aux pertes de chiffre d'affaires, moins 30%, moins 40%, moins 50% parfois. Avec Jean Castex, en milieu de semaine dernière, eh bien, nous étions justement aux côtés de ces restaurateurs pour annoncer des aides au paiement. Alors, de leur cotisation.
Justement, parlons des restaurateurs, des aides qui vont perdurer, combien de temps, jusqu'à quand ?
Ouais, avec Bruno Le Maire, on a été clair hein, depuis le début, tant que les restrictions sont là, et donc, c'est-à-dire jusqu'au 16 février, eh bien, par exemple pour les boîtes de nuit, eh bien, nous continuons les dispositifs de soutien et d'aide parce qu'on veut préserver l'emploi, on veut préserver les entreprises, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, regardez les chiffres, la France, elle rebondit plus vite et plus fort économiquement que ses voisins, parce qu'on a toujours protégé les entreprises.
Les discothèques, vous en parliez, elles vont pouvoir rouvrir donc le 16 février. Elles sont fermées depuis le 6 décembre dernier, il faut le rappeler. Il y en avait 1600 discothèques en France en mars 2020. Vous savez combien il en reste aujourd'hui ?
Écoutez, on est autour vraisemblablement de 1400, 1500.
1350.
Voilà, donc je suis pas loin.
Donc 20% de pertes, 20% de boîtes de discothèques qui ont fermé.
Ouais. Alors on a mis là aussi des filets de sécurité importants. Samedi dernier, il y a un peu plus d'une semaine, j'étais à la rencontre du monde de la nuit à Lyon. J'ai pu échanger longuement avec ces professionnels. Moi, je leur tire mon chapeau parce que il a fallu serrer les dents. Nous, depuis décembre, on a réactivé aussi les dispositifs de soutien. Je le dis pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs, les dispositifs sont en ligne depuis le 6 janvier. Ils peuvent déposer leur dossier, etc. Et on va être très réactifs. Mais ce qui compte, ce qu'ils voulaient, c'est travailler. Et ce qui est très bien, et le président de la République en a tenu le plus grand compte, c'est qu'il est fait rouvrir en même temps que les autres, en même temps que la consommation debout, en même temps que les bars dansants. Et donc, ils ne sont pas stigmatisés. Et je leur tire mon chapeau parce que depuis le début, ils ont fait le contrôle du pass sanitaire. Ils se sont assurés qu'il n'y avait pas de fraude et ils ont été les premiers à le faire.
Ces discothèques, elles vont rouvrir avec masque, sans masque. Comment ça va se passer ?
Alors, l'idée, c'est qu'on rouvre comme c'était auparavant. C'est-à-dire que seul le pass vaccinal justement sera exigé puisque tous les établissements où il y a le pass sanitaire désormais c'est le pass vaccinal et qu'on puisse à nouveau danser retrouver des sensations qu'on n'avait pas connues depuis quelques semaines.
Ces gérants de discothèques, on les a contactés, ils nous disent finalement qu'ils n'ont pas pu constituer leur dossier de soutien financier, ils ont pu le faire que depuis 2 ou 3 jours seulement.
Alors les annonces ont été faites mi-décembre. Après, ils ont tout un travail à faire avec leurs experts comptables. Ce que je peux vous dire, c'est que à date, nous, on a une centaine de dossiers qui sont arrivés au ministère de l'économie. Et naturellement, au fur et à mesure qu'ils arrivent, on les traite. C'est très important qu'ils aient effectivement ce soutien. Et on a été, y compris jusqu'à prendre les traitements des gérants, parce que le mois de décembre, c'est un mois important. C'est un mois où ils font un chiffre d'affaires significatif qui permet de tenir. Parce qu'ils ont une saison inversée. Souvent, on va dans les centres-villes, on va plus en discothèque sur l'hiver que sur l'été. Donc, c'est important qu'on soit au rendez-vous du soutien de ce point de vue-là.
Encore une question des restaurateurs qui ne veulent pas contrôler l'identité de leurs clients. Ce sera le cas avec ce pass vaccinal à partir de demain lundi. Ils disent finalement, on n'est pas flics. Ce n'est pas notre métier.
Mais d'ailleurs, la loi, elle ne dit pas tout à fait ça. Soyons précis. La loi, elle dit, si vous avez un doute sur... la correspondance entre le pass vaccinal et la personne, à ce moment-là, vous pouvez vérifier. Parce que moi, j'ai eu des retours terrain, des gens qui m'ont dit « Ah ben, c'est vrai que parfois, on voit quelqu'un de 20 ans qui se pointe avec un pass sanitaire dont la date de naissance est quelqu'un qui a 45 ans ou 50 ans, on sait qu'il y a un problème. » Donc, c'est dans ce type de cas où celui qui tient l'établissement peut demander. Mais vous voyez que c'est pas systématique et moi je fais confiance au bon sens aussi, là aussi de la profession.
Jean-Baptiste Lemoine, ce sera sans doute le dernier grand chantier économique du quinquennat, c'est un texte que vous portez vous, il vise à mieux protéger les travailleurs indépendants. Il sera adopté quand à l'Assemblée ?
Eh bien écoutez, le 7 février en principe, ce sera l'adoption définitive de cette loi sur les indépendants que le président de la République avait annoncé mi-septembre devant les artisans et les commerçants de l'UDP. Et c'est un texte très important parce que...
Ça concerne permet... 3 millions de travailleurs en France.
Exactement. Hein. Et ceux qui nous écoutent et qui sont dans cette situation savent vont voir le progrès que ça constitue. Jusqu'à maintenant, vous étiez protégé en cas de faillite uniquement sur votre résidence principale. C'était une réforme de 2015 qui avait déjà porté le président de la République. Et aujourd'hui, on étend cette protection. Désormais, en cas de faillite, on ne pourra appréhender que les éléments qui étaient utiles à votre activité professionnelle. Donc ça, c'est une véritable révolution. Donc on protège mieux. Fin de la double peine, parce que quand ça se passe mal, en plus, c'est qu'on vient vous chercher sur vos biens propres, vous trinquez deux fois. Donc ça, on y met fin. Et puis,
ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne faudra plus justifier d'une liquidation, d'un redressement judiciaire ?
C'est-à-dire que dans ces cas-là, on ne pourra venir vous chercher que sur des éléments qui sont propres à votre activité professionnelle et plus sur des éléments qui sont de votre patrimoine personnel. Donc ça, c'est crucial. Et puis aussi, on a mis en place le fait que si vous cédez votre entreprise et que la valeur ne dépasse pas 500 000 euros, la plus-value, elle est exonérée. C'est important. Et puis pour ceux qui reprennent, on fait en sorte aussi de pouvoir amortir sur 10 ans. Donc voilà, on favorise l'esprit d'initiative.
Et il était souvent pour les indépendants compliqué d'accéder à Pôle emploi, d'obtenir le chômage. Là encore, il y aura des changements.
Alors, un filet de sécurité, effectivement. Alors, c'est la mise en place de ce qu'on appelle l'ATI, l'allocation travailleur indépendant. Un filet de sécurité de 800 euros et qui va enfin toucher plusieurs dizaines de milliers de personnes. Parce qu'aujourd'hui, c'était très corseté, il y avait beaucoup de verrous. Et là, on fait en sorte que dès lors que vous perdez, par exemple, 30% de votre chiffre, que votre activité n'est plus viable, désormais, vous pourrez, si vous voulez changer de voie, vous réorienter, prétendre à cette indemnité pendant 6 mois.
Jean-Baptiste Lemoine, ministre des PME, également du tourisme, vous restez avec nous ?
Bien sûr.
On se retrouve à 8h moins le quart, précisément avec Valérie Darmon, avec Roland Pérez. On a beaucoup de questions sur les vacances à vous poser. Ça vous concerne, 8h moins le quart. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
7h19, dimanche 23 janvier, l'Info Express, Lénaïque Monnier.
La baisse de la fréquentation dans les manifestations anti-pass vaccinales, moins de 40 000 personnes ont défilé hier. Le député La République En Marche, Romain Gros, ainsi qu'un conseiller parlementaire violemment pris à partie à Perpignan. Sa permanence a été attaquée. Le pass vaccinal, qui on le rappelle, entre en vigueur demain. La première ministre de Nouvelle-Zélande reporte son mariage justement à cause des nouvelles restrictions décidées par son gouvernement. Recrudescence de l'épidémie de Covid en Nouvelle-Zélande et de son variant Omicron. Un regain de tension dans le dossier ukrainien. Moscou appelle cette nuit Londres à cesser de propager des absurdités. Hier soir, le Royaume-Uni a accusé la Russie de chercher à installer un dirigeant pro-russe à Kiev et d'envisager d'occuper l'Ukraine. Et puis Novak Djokovic a bien l'intention de jouer l'Open d'Australie l'année prochaine. Déclaration du tournoi qui ne parle pas du directeur du tournoi, qui ne parle pas de fiasco après l'expulsion du numéro 1 mondial, mais bien de mauvaise communication. L'Open d'Australie que quitte à l'instant le français Adrien Mannarino. Il vient d'être battu par Rafael Nadal 7-6, 6-2, 6-2 au troisième tour.
Merci Lénaïque. Dans un instant, Mathieu Alterman pose son œil sur notre époque ce matin. Il a regardé tous les films, des films bourrés d'erreurs, m'a-t-il dit. Démonstration dans un instant. A tout de suite. Merci de commencer la journée avec nous sur Europe 1, bien sûr.
Europe Matin Weekend.
Thierry Dagiral.
Pas de week-end pour lui, il traque et note tout ce qui ne fonctionne pas bien. Bonjour Mathieu Alterman.
Bonjour Thierry.
Alors ce matin, vous nous parlez, Mathieu, des incroyables erreurs dans les films. Mais que faisait la production ?
J'ai en effet une passion, Thierry, pour les histoires improbables, les erreurs d'aiguillage ou de casting. Ouais. Alors, je ne vais pas vous parler des fameux plans de films historiques où des figurants ont gardé au poignet leur montre à quartz. Non, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les véritables absurdités assumées dans quelques-uns de nos films préférés. Voilà donc mon best-of sans ordre de préférence du grand n'importe quoi. Vous avez reconnu Star Wars, hein, la guerre des étoiles, ouais, pour le film original de 1977, où, rappelons les faits, Luke Skywalker est censé avoir une existence cachée de son père, le méchant Dark Vador, de son vrai nom Anakin Skywalker. Mais alors, s'il voulait rester incognito, pourquoi son oncle et sa tante n'ont pas changé son nom ? Luke Skywalker, Anakin Skywalker, ça sonne pareil, c'est normal, c'est la même chose. En plus, il vit sur la même planète natale. Tatooine. Absurde pour un planqué en danger. Explication possible, George Lucas ne s'attendait pas à un tel succès et n'avait pas encore écrit l'Empire Contre-Attaque où l'on apprend que Luke est le fils de Dark Vador. Vous vous souvenez de Karate Kid, hein, oui. Et du tournoi final où les coups de pied à la tête sont rigoureusement interdits. Alors pourquoi le gentil Daniel LaRusso gagne grâce à un coup de pied à la tête rigoureusement interdit ?
Honnêtement Mathieu, vous regardez vraiment les films comme un sadique à l'affût de la moindre erreur.
Hein. Ah oui Thierry, et j'adore ça. Prenez 58 minutes pour vivre avec Bruce Willis. Oui. Un groupe de terroristes a mis plusieurs mois à concocter un plan machiavélique pour faire évader un général. Pourtant, ce plan est entièrement dépendant de la tempête de neige qui est survenue au dernier moment, le jour du début du film à l'aéroport. Trop fort, messieurs les terroristes, ils sont quand même très très doués. Le film Waterworld avec Kevin Costner. La terre est complètement recouverte d'eau et la ressource la plus précieuse est désormais le papier. Pourtant, les personnages du film fument à longueur de temps des cigarettes qui sont fabriquées à partir de papier. Et oui. Comment les personnes peuvent-ils être encore sceptiques dans SOS Fantôme 2 concernant l'existence des fantômes, alors que dans le premier film, il y a tout de même un bibendum chamallow géant de 12 étages qui a voulu détruire New York. Ils ont
Alors, encore plus pervers, apparemment, vous êtes également un obsédé des erreurs de casting.
Mais comment Thierry ? Dans Un éléphant, ça trompe énormément. Oui. Et nous irons tous au paradis.
On va loin.
Ouais. Marthe Villalonga interprète la maman de Guy Bedos. Souvenons-nous.
Bien sûr.
J'ai l'éblouissement plein de Samaritaine. J'appelle mon fils, il me raccroche au nez de sa mère. Maintenant, il veut me critiquer que je suis pas morte. Eh ben, si c'est ça votre médecine de gauche, hein ? Les communistes, ils n'ont pas intérêt à prendre froid parce que...
Mais oui, bien sûr, sauf que l'actrice a 2 ans de plus que Guy Bedos. Voilà, ah qui oui. rendrait presque crédible le film Blue Hawaii, puisque la mère d'Elvis Presley y est campée par Angela Lansbury, qui n'a que 9 ans de plus que le rocker. Toujours plus ahurissant, le James Bond au service secret de sa majesté avec George Lazenby, dans lequel le méchant Blofeld reconnaît après plus d'une heure de film l'agent secret, se faisant alors passer pour un scientifique, alors que finalement, il l'avait tout bêtement déjà vu dans le film précédent avec Sean Connery, On ne vit que deux fois. Bon, nous sommes dimanche, hein. Il va falloir que je vous laisse, je vais me détendre oui. en me repassant le dernier épisode de Goldorak, dans lequel, à la fin, Actarus est censé retourner repeupler sa planète détruite au fort avec sa sœur Phénicia. Allô, y a-t-il un scénariste dans la salle?
Vous êtes vraiment malade, c'est comme ça qu'on vous aime. Mathieu Alterman, bon dimanche, Mathieu.
Bon dimanche.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Allez, dans 4 minutes, le journal de 7h30. Retour sur le meeting d'Éric Zemmour à Cannes hier soir. D'ici là, un peu de musique pour vous accompagner. Grégory Porter sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et on vous lit, bien sûr, avec plaisir hein, sur les réseaux sociaux et sur notre page Facebook Europe Matin Weekend. On vous y attend avec beaucoup de plaisir. Il est 7h30 sur Europe 1 et le journal vous est présenté par Clément Gouze. Bonjour Clément.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Éric Zemmour appelle à l'union de la droite. Le candidat à la présidentielle tenait hier un meeting à Cannes. Reportage en début de ce journal.
Le pass vaccinal arrive-t-il trop tard? C'est la question que nous avons posée à Jean-Paul Stahl, professeur émérite de maladies infectieuses à l'université de Grenoble.
Ambiance cocooning à la fin de ce journal. Nous irons découvrir en compagnie de Marie Jiquel le festival Temps à la Villette à Paris.
Au sommaire de la prochaine demi-heure à 7h40, la une du JDD, elle est consacrée à la sécurité. Les Français jugent le bilan d'Emmanuel Macron. 8h moins le quart, ça vous concerne, avec le ministre donc Jean-Baptiste Lemoyne qui est resté avec nous. On s'intéressera à vos prochaines vacances. À quoi vont-elles ressembler? Mais d'abord, la tendance météo avec vous, Valérie Darmon.
Tellement gris au nord, tellement bleu au sud et sec partout, avec des maximales entre 2 à Lons-le-Saunier et 14 à Toulon.
Le détail météo dans 7 minutes. Éric Zemmour met en scène son union des droites. Le candidat à la présidentielle était en déplacement hier à Cannes où il a tenu meeting.
Et il a longuement appelé à l'union entre les électeurs des Républicains et du Rassemblement National. Les nouveaux venus étaient tous présents, Gilbert Collard, Guillaume Pelletier ou encore Jérôme Rivière. Les précisions de notre correspondant Victor Chabert.
Une salle chauffée à blanc, plus de 4000 personnes, une marée de drapeaux tricolores. Philippe Devilliers appelle sur scène le dernier ralliement, Gilbert Collard.
Bienvenue à Gilbert Collard !
Je n'ai pas, contrairement à ce que disent mes anciens amis du Rassemblement National, de l'aigreur. J'ai l'estomac politique qui fonctionne bien.
Éric Zemmour n'a pas choisi Cannes par hasard, c'est une ville historiquement de droite, celle-là même qu'il veut unir.
L'appel des victoires, c'est l'appel à abolir ce fameux et funeste cordon sanitaire. À vous, électeurs du Front National, qui n'en pouvez plus de perdre. À vous, électeurs des Républicains, qui n'en pouvez plus de voir vos dirigeants trahir vos idées. Unissons nos forces.
Avec les ralliements, puis une matinée dans les rues ensoleillées de Cannes qui se transforme en bain de foule et un grand meeting devant plusieurs milliers de personnes, c'est une séquence sans encombre pour Éric Zemmour. Son entourage confie que d'autres personnalités, LR et RN, devraient le rejoindre dans les prochaines semaines.
Victor Chabert du service politique d'Europe 1. Le candidat communiste Fabien Roussel dévoilera demain son programme.
Il s'articulera sur deux grands axes, le pouvoir d'achat et le travail. Il a dévoilé quelques propositions hier, notamment rendre le permis de conduire gratuit pour les moins de 25 ans. Anne Hidalgo ira jusqu'au bout. La candidate socialiste au plus bas dans les sondages l'a réaffirmé hier après-midi lors de son meeting à Aubervilliers. La maire de Paris a précisé que la désunion à gauche n'est pas de son fait et défendra donc son projet. Nouvel épisode dans le dossier ukrainien. Londres accuse Moscou de chercher à installer un dirigeant pro-russe à Kiev et d'envisager d'occuper l'Ukraine. La Russie botte en touche et appelle le Royaume-Uni à cesser de propager des absurdités. De son côté, les États-Unis se disent profondément préoccupé par ces accusations.
Et justement, Clément Beaune, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, sera l'invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos à partir de 10h ce matin. Fini le pass sanitaire, place au pass vaccinal. Dès demain, les plus de 16 ans devront le présenter pour se rendre au cinéma, prendre le train ou encore boire un verre.
Cette obligation arrive alors que l'écrasante majorité des Français est déjà passée par la case vaccin et que la plupart des autres mesures sanitaires vont être levées. Pour Jean-Paul Stahl, professeur émérite de maladies infectieuses à l'Université de Grenoble, ce nouvel outil arrive tard mais reste précieux pour inciter à la vaccination.
On aurait dû le faire plus tôt. Tout au moins pour ce qui se passe là aujourd'hui, évidemment que c'est trop tard. Pour l'avenir, c'est quand même indispensable. Parce qu'il n'y a pas que Omicron dans la vie, hein. Il y aura d'autres variants. Ça reste un élément absolument indispensable. Mais pour le prix de 3 injections vaccinales qui ont quasiment aucune conséquence, on est en train de foutre en l'air un système de santé, on est en train de retarder des interventions sur cancer, on est en train de moins bien prendre en charge des patients qui ont des insuffisances cardiaques. C'est pas possible. Ben nous, infectiologues, on plaide depuis très longtemps pour rendre cette vaccination quasi obligatoire.
Jean-Paul Stahl, interrogé par Nina Droff. C'est dans ce contexte que les Anglais font leur retour dans les stations de ski. Ils peuvent désormais revenir en France sans aucune restriction.
Une nouvelle qui réjouit notamment les professionnels de la montagne, car les Anglais sont de grands amateurs de ski et représentent une proportion importante de la clientèle des stations alpines françaises. Derrière le masque, c'est donc le grand sourire, notamment à la Plagne, en Savoie. Reportage de notre correspondant Jean-Luc Boujon.
Il n'était pas là pour Noël et cela s'était vu dans les rues de la Plagne, car la station savoyarde est une des préférées des Anglais qui, en hiver normal, représente près de 20% de la fréquentation. Pour le maire Jean-Luc Bock, retrouver la clientèle britannique, c'est donc une...
excellente nouvelle. La Plagne, c'est plusieurs dizaines de milliers d'Anglais qui viennent chaque semaine nous voir. Aujourd'hui, ils reviennent et on est très heureux de les accueillir.
D'ailleurs, les appels venus d'Outre-Manche se font beaucoup plus nombreux depuis quelques jours.
Oxygène Immobilier, Sophia, bonjour.
Hello, I would like some information about an accommodation for the week.
Ce que confirme Sybille de Montvalier de l'agence immobilière Oxygène.
Effectivement, on a des réservations de la part de clients anglais tous les jours qui rentrent. Beaucoup d'appels, beaucoup de mails, beaucoup de consultations, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie.
Dans les restaurants aussi, on se réjouit de ce retour, explique Stéphane Griadou, patron des Cocottes situées au pied des pistes.
On les attend avec impatience. Nous, on les adore. C'est des personnes très joviales. On s'entend très bien avec eux. Ils mettent la bonne ambiance. Et en plus, c'est des bons consommateurs, ça c'est vrai. Ça consomme de la bière quand il fait beau, en terrasse, à l'intérieur. Les dépenses, non, ils regardent jamais. Ce qu'ils veulent, c'est profiter et se faire plaisir surtout.
Chaque année, les retombées économiques de la clientèle anglaise sur les domaines skiables français sont estimées à 1 milliard d'euros. La Plagne, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et justement, on va en reparler avec Jean-Baptiste Lemoine, ministre du Tourisme et des PME. Il est, vous le savez, l'invité spécial de cette matinale week-end. Il va nous rejoindre à nouveau dans un instant. On passe au sport. Mauvaise opération des handballeurs français à l'Euro.
Les Bleus ont trébuché face à l'Islande, une défaite 29-21. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. Il faut absolument battre le Monténégro et le Danemark lors du dernier match du tour principal pour espérer se qualifier pour les demi-finales. En Ligue 1, l'OM s'est imposé hier 2-0 face à Lens. Et puis, pas de miracle pour Manarino à l'Open d'Australie. Défaite au troisième tour en 3-7 face à Nadal.
Allez, pour terminer, direction la Villette. C'est à Paris pour découvrir un festival assez original.
Son nom, tant. Il s'agit d'un festival en ligne et gratuit. Cette année, la Cité des sciences et de l'industrie a choisi le thème du cocooning. Justement, Marie Jiquel a testé un des ateliers.
Tenue conseillée, pyjama, chaussons et plaid. Depuis la maison, on se connecte au festival et à ses cours en ligne pour fabriquer son savon, s'initier à l'auto-hypnose et recycler ses vieux vêtements. Une invitation aux travaux manuels dans une ambiance home sweet home, peut-être près d'un feu de bois. Et si vous n'avez pas de cheminée, l'atelier bruitage animé par Jean-Carl Feldis vous en donnera l'illusion.
Pour faire un feu de cheminée, on prend deux pommes de pin qui ont séché et on les écrase très lentement, très très lentement l'une contre l'autre.
Grâce à notre professeur bruiteur, vos ustensiles se transforment en instruments de musique.
Tout simplement, deux entonnoirs en plastique et j'ai mis un chiffon assez épais par terre et comme ça je compte trois dans ma tête pour faire un cheval au galop. Je passe mon temps à chercher, vous voyez, j'ai trouvé le bruit des crapauds, voilà, justement ça c'est très chouette. Je faisais la vaisselle chez moi, je lavais des tasses à café, et d'un seul coup, en lavant une tasse à café, j'ai entendu des grenouilles, vous voyez.
Allez, on range la vaisselle et on descend de son cheval, il ne faudrait pas trop se fatiguer.
Rendez-vous sur le site de la Cité des Sciences pour profiter de ce festival.
Parfait, c'était le journal de Clément Guise, merci beaucoup Clément. Alors, le temps de votre dimanche, Valérie Darmon, calme on va dire, hein, beau au sud et bouché au nord.
Effectivement, les phénomènes de basse couche qui sont nombreux sous forme de nuages bas et de stratus. Une nouvelle fois encore, si vous habitez donc dans la moitié nord, vous ne risquez pas de voir le soleil tout au long de la journée aujourd'hui. Mais par contre, il y a moins de brouillard givrant ce matin. Et si vous êtes en montagne et près de la Méditerranée, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine, vous profitez d'une très très belle journée, malgré les gelées parfois sévères hein, du matin. Beau temps qui va donc durer jusqu'à ce soir, jusqu'en Méditerranée et sur le golfe de Gascogne.
On regarde les températures, Valérie.
Elles sont assez contrastées, elles ressemblent au ciel, entre 2 à Bourg-en-Bresse ou encore Lons-le-Saunier et 14 à Marseille, à Bastia, à Toulon, 3 annoncés à Mâcon, 4 à Chartres et Châteauroux, 5 à Bourges et Dijon, tout comme à Clermont-Ferrand, 6 à Montluçon, à Caen, à Guéret, à Besançon, à Valence, à Paris, 7 à La Rochelle, à Lille et Boulogne-sur-Mer, 9 à Brest, Toulouse, Bordeaux et Agen, 10 à Avignon et Limoges et 11 degrés à Biarritz et Perpignan. Bien sûr, il s'agit des maximales parce que ce matin, il fait beaucoup plus
bien
froid.
Bien sûr. Merci beaucoup, Valérie Damant. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes avec Roland et avec le ministre Jean-Baptiste Lemoyne avec nous depuis 7h10. Ça vous concerne spécial tourisme. On va parler de nos vacances. Mais d'abord, la une du JDD avec son directeur de la rédaction. Bonjour Cyril Petit.
Bonjour Thierry.
Alors ce matin, le JDD consacre sa une à un sujet important aux yeux des Français, la sécurité. Vous dressez le bilan d'Emmanuel Macron sur ce point.
Oui, la sécurité constituera-t-elle le talon d'Achille d'Emmanuel Macron dans cette campagne ? En tout cas, tout a été préparé avec soin et obstination par les concurrents situés à sa droite afin qu'il en soit ainsi. Les citoyens, eux, sont sévères avec le chef de l'État. Selon le sondage que le JDD diffuse, réalisé par l'IFOP, 59% des Français jugent négatif le bilan de Macron en matière de sécurité, contre 31% qui l'estiment positif.
Alors, vous diffusez dans le JDD les courbes de l'évolution d'un certain nombre d'indicateurs. Quels sont les grands faits qui augmentent et ceux qui baissent ?
Alors, sont stables ou en baisse, hein, les cambriolages de logements, les vols avec armes, les vols violents sans armes, les vols liés aux voitures, les destructions et dégradations volontaires ou encore les homicides. Au contraire, sont en hausse les escroqueries, les coups et blessures volontaires, notamment les violences intrafamiliales. Et puis, il y a le cas spécifique de la courbe des plaintes déposées pour violences sexuelles. Ouais. Elle ne cesse de s'élever depuis 2017 et la tendance s'est encore accentuée en 2021. Alors, les analystes rappellent le contexte de libération de la parole et l'amélioration de l'accueil des victimes. De plus, une partie de ces plaintes concerne des faits plus anciens.
Et Cyril, exceptionnellement, dans notre rendez-vous du dimanche matin, évoquons un autre sujet de la une du JDD qui est aussi au cœur de la campagne, le pouvoir d'achat, bien sûr.
Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, lance dans le JDD un vrai cri d'alerte. Le pouvoir d'achat, dit-il, doit devenir un sujet dans la campagne. Il insiste sur la faiblesse des salaires. À ses yeux, la solution, elle est du côté des entreprises. Il lance un appel au patronat, mais aussi du côté de l'État. Selon lui, la puissance publique doit obliger les branches professionnelles à augmenter leur minima dans les 3 mois qui suivent une hausse du SMIC. Et puis, dans le JDD, le leader du premier syndicat de France en profite pour donner une info politique. Si Macron est face à Le Pen ou Zemmour au second tour, il appellera à voter pour le président sortant. Il fera de même pour tout autre candidat qui permettra de contrer l'extrême droite.
Merci Cyril Petit, directeur de la rédaction du JDD. Dans la presse également ce matin, le coup de maître, titre l'Équipe, coup de chapeau à la nouvelle recrue de l'OM, Cédric Bakambou. Il a été décisif hier soir face à Lens. Et puis dans le Parisien, aujourd'hui en France, dimanche, petite trahison et grande manœuvre. Le journal revient sur Gilbert Collard qui vient de rejoindre Éric Zemmour. Dans un instant, Valérie Darmon, Roland Pérez, on parle vacances avec le ministre du Tourisme. Invité spécial de votre matinale week-end. A tout de suite sur Europe 1.
Réveillez-vous. Informez-vous. Avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
Voilà, tous les dimanches, 8h moins le quart, ça vous concerne, avec Valérie Darmon, avec Roland Pérez. Bonjour à vous.
Bonjour Thierry.
Bonjour à tous.
Rendez-vous spécial ce matin, vous le savez, avec le ministre Jean-Baptiste Lemoyne qui est resté comme promis et on vous en remercie. Alors, on est à 15 jours des vacances de février pour la zone B. On a plein de questions, bien sûr, à vous poser concernant le tourisme. Ministre du Tourisme, vous l'êtes également, ministre également des Français et de l'étranger. Février, pour les plus chanceux, ce sont les vacances au ski. Avec une première question, Valérie.
Oui, est-ce que le secteur de la montagne ne mérite pas d'être aidé davantage ? Alors, c'est la question de Jean-Christophe Nolli avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes moniteur de ski à l'ISF à Orcières-Merlette dans les Hautes-Alpes. Quelle est la situation sur place, Jean-Christophe ? Et surtout, quelle est votre question à Monsieur le ministre ?
Eh bien, bonjour. Ma question, c'était pour savoir si on allait faire la saison en entier.
Ah bah écoutez, j'y compte bien. Je peux vous dire qu'on a tous suffisamment regretté de ne pas pouvoir dévaler les pentes de tous les massifs l'hiver dernier, ouais. Que cette fois-ci, grâce, dans un premier temps, au pass sanitaire. On a pu ouvrir, hein, vous l'avez vu. Les vacances de Noël, d'ailleurs, se sont bien déroulées. On le voit, on recolle quasiment à ce qu'on faisait en 2019, hein, d'après les données de la NMSM, c'est l'Association des maires des stations de montagne. Pour février, on est à peu près à 72% de taux d'occupation. Là, on était à 74% en 2019. Et puis, la semaine dernière, j'ai annoncé le retour des clientèles britanniques parce que les touristes britanniques n'ont pas pu venir à Noël. Et exactement. Là, je peux vous dire que, alors, d'après les témoignages des domaines skiables de France, les réservations montent très fort.
Alors justement, merci à Jean-Christophe Nollier de nous avoir contactés. Les Anglais, vous l'avez dit, reviennent, notamment dans les Alpes. Pas les Chinois, globalement d'ailleurs. Pas les Chinois, pas les Japonais, pas les Américains. D'ailleurs, la France est encore sur la liste des pays à risque. le manque à gagner, il est bien sûr énorme. Ça, c'est un vrai problème.
Alors, il faut voir que le tourisme international en France, aux deux tiers, voire aux trois quarts, c'est un tourisme européen. Et donc, moi, j'ai beaucoup travaillé depuis deux ans pour vanter le tourisme bleu-blanc-rouge. D'une part, que les Français redécouvrent la France, qu'ils ont fait, mais également que les Européens continuent à venir en France. Ça a été le cas, d'ailleurs, à Noël. Beaucoup de Belges, beaucoup de Néerlandais. Par exemple, les stations de ski ont fait une très belle première semaine de janvier grâce à ces clientèles-là. Et là où on a une chance, c'est que globalement, on voit qu'au niveau européen, les États sont en train de bouger pour aussi mettre en place le rappel, ce qui va permettre aussi à ces clientèles de pouvoir avoir leur passe vaccinale.
Autre question, monsieur le ministre, il y a un vrai souci, c'est désormais la tendance avec le Covid. Les réservations se font très tard, les opérateurs s'arrachent les cheveux. Là, actuellement, les opérateurs enregistrent une chute de 70% des réservations par rapport à janvier 2020, donc avant la pandémie.
Alors, je pense qu'on est vraiment sur un rattrapage. Alors, c'est vrai que les comportements aussi évoluent, mais c'était avant la crise déjà. Hein. Souvenez-vous, on préparait son séjour de plus en plus tardivement parce que aussi, on le voit, avec les nouveaux moyens de communication, avec Internet, etc. Il y a une flexibilité et ça s'est accru encore avec la pandémie. Mais je vois aussi des acteurs touristiques qui se sont adaptés, qui se sont numérisés et je crois que il y a toutes les raisons d'espérer. Je mets aussi un bémol parce qu'il y a certains territoires dans lesquels, on le sait, c'est plus compliqué. Je pense à Paris, je pense aux métropoles, parce que là, ce sont des clientèles, vous le disiez, parfois chinoises, russes, pour lesquelles les vaccins ne sont pas forcément ceux qui sont homologués par l'Europe. Et puis surtout pour lesquels aussi, il est très compliqué de voyager. Et donc là, on continue à être aux côtés de ces acteurs.
Monsieur le ministre, l'État a beaucoup aidé le secteur du tourisme, on le sait. Mais jusqu'à quand vous allez l'aider, en fait?
Écoutez, tant qu'il y a des restrictions, on sera au rendez-vous. Hein, donc c'est le cas, regardez, on parlait tout à l'heure des discothèques, ils rouvrent le 16 février, et ben ça veut dire que jusque-là, naturellement, nos dispositifs continuent à courir pour les aider, ce qu'on appelle la prise en charge de l'activité partielle sans reste à charge, avec ce qu'on appelle les coûts fixes, etc. Ouais. Depuis le début, vous savez, pour le secteur du tourisme, au sens large, on a mis 38 milliards d'euros sur la table. Donc c'est pas pour aujourd'hui les laisser tomber, tant qu'il y a la restriction, on est là.
On va prendre au téléphone avec nous ce matin le directeur général de l'Office du Tourisme et du Centre Expo Congrès de Mandelieu-Lanapoule sur la Côte d'Azur. Bonjour, vous êtes Pierre-Louis Roucariès.
Oui, Pierre-Louis, il y a eu un grand absent de ce qu'a dit des annonces de Jean Castex ce jeudi, c'est le domaine des congrès d'affaires. Et vous, c'est quand même la moitié des sources de revenus de la commune. Donc, est-ce que vous déplorez le fait que cette question n'ait pas été abordée jeudi?
C'est vrai que la reprise est compliquée pour nous. D'abord, si je prends l'exemple effectivement du centre de congrès à Mandelieu, nous n'avons aucune activité en janvier ni en février. Tous les événements ont été annulés, reportés. Donc c'est compliqué. Et ce que je voudrais rappeler à Monsieur le ministre, que je salue, c'est qu'effectivement, il y a le principe de temporalité. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas reprendre une activité en 15 jours. Donc, un événement, ça s'organise sur plusieurs mois. Ouais. Et donc, et malgré tous les efforts des opérateurs pour maintenir les événements, effectivement, il nous faudra plusieurs mois pour reprendre une activité normale ou peut-être même un peu plus que ça. En tout cas, il y a cet effet temporalité. Et quand vous évoquez effectivement que les aides vont rester jusqu'au moment de la levée des restrictions, eh bien, nous, le problème, c'est qu'on va continuer encore à avoir de grandes difficultés avant de
d'avoir des conséquences. Le ministre vous répond.
Pierre-Louis Roucariès a raison. Lorsque le signal positif est envoyé, il y a toujours un petit temps de latence.
Bien sûr.
Et c'est pour ça aussi qu'on veut aider ce secteur de l'événementiel à rebondir avec une aide en particulier. Par exemple, on va mettre en place une aide au stand pour inciter les entreprises à retourner sur les foires, sur les salons, avec jusqu'à 12 500 euros qu'on prend en charge. Et c'est une mesure qui coûte 100 millions d'euros, mais on considère que ça va permettre de rebondir. Et puis pour les congrès, je dis aux entreprises, aux fédérations, reprogrammez vos événements. Effectivement, c'est important de se retrouver et pas seulement par pixel interposé en visio. Et puis c'est important pour l'économie de nos territoires.
Merci à vous, Pierre-Louis Roucariès. Jean-Baptiste Lemoine, ministre en charge du tourisme, invité ce dimanche matin. Ça vous concerne dans un instant. On parle voyage en Europe et à l'étranger avec Roland Pérez. À tout de suite.
Europe Matin Weekend.
Thierry Dagiral.
Pour l'heure 8h-10, l'Info Express, Clément Guizin.
Historique, voilà comment qualifie Gérald Darmanin les résultats des forces de l'ordre dans la lutte contre la drogue en 2021. Le ministre de l'Intérieur dresse le bilan ce matin dans le JDD. On apprend que les saisies de cannabis, de cocaïne et d'héroïne ont fortement augmenté. Grand écart politique pour Valérie Pécresse. Après avoir reçu le soutien de Laurent Wauquiez vendredi, la candidate LR a reçu hier l'investiture des centristes et de l'UDI. Éric Zemmour était hier à Cannes, l'occasion d'officialiser le ralliement de Gilbert Collard. Cette arrivée permet à l'ancien polémiste de renforcer sa stratégie de rassemblement des droites. Faible mobilisation des antipasses, ils étaient près de 38 000 hier à battre le pavé un peu partout en France, selon le ministère de l'Intérieur. Marseille sous les ordures, troisième grève des éboueurs depuis septembre. Objectif, demander une hausse des salaires. La préfecture de police a réquisitionné des agents jusqu'à demain. Et puis Manarino passe à la trappe. Le français s'est incliné en 3-7 face à Nadal au troisième tour de l'Open d'Australie.
Merci Clément, à tout à l'heure. Allez, on continue à parler de nos vacances.
Réveillez-vous, informez-vous avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
Ça vous concerne, deuxième partie avec Valérie Darmon et Roland Pérez, toujours là. Invité spécial ce matin, le ministre entre autres du tourisme Jean-Baptiste Lemoyne. Alors on va continuer à parler des vacances, on va avoir maintenant un pass vaccinal, donc à partir de demain. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? D'abord Roland Pérez, jusqu'alors, quelles étaient les règles pour voyager?
Alors pour voyager c'était simple, chaque pays restait en fait libre d'édicter ses propres règles. Mmh. De passage au niveau de l'Union européenne. Il fallait aller au conseil sur conseil aux voyageurs, même pour l'étranger, pour savoir exactement quelles étaient la réglementation requise, généralement un test PCR de moins de 24 heures ou de 48 heures. Aujourd'hui, les choses vont changer. Après plusieurs jours de débat au Parlement, le projet de loi passant du pass sanitaire au pass vaccinal va rentrer en vigueur. Dans le langage courant, on parle plus simplement de pass vaccinal. Justement, avec le pass sanitaire, un test PCR ou antigénique pouvait se substituer au vaccin. Désormais, il faudra un schéma vaccinal complet pour l'obtenir et à partir du 15 février, il faudra effectuer une dose de rappel, 4 mois et non plus 7, après sa deuxième dose pour que le pass reste valable.
Jean-Baptiste Lemoyne, ce pass vaccinal, il le faudra pour donc voyager en février à Pâques cet été?
Attention, il y a deux aspects.
Ouais.
Il y a ce qu'on appelle le pass activité, c'est-à-dire je veux me rendre dans un restaurant, dans une boîte de nuit, bref, dans un lieu qui accueille du public et qui était soumis avant au pass sanitaire. Désormais, je suis soumis au pass vaccinal. Ouais. Mais pour franchir une frontière, ce qu'on appelle le pass frontière, on en reste à ce qui existait auparavant, c'est-à-dire que c'est le système européen qui s'applique. Et donc, dès lors que j'ai mes deux doses, je peux franchir la frontière. Donc, mais en revanche, c'est vrai que l'Européen qui vient et qui n'a pas son rappel, il verra qu'il a accès à peu d'activités. La bonne nouvelle, c'est qu'en Europe, il y a quand même un mouvement général pour aller vers le rappel. Et puis, je précise, on est là aussi avec le pass vaccinal sur un dispositif qui a vocation à être temporaire, parce qu'il est là pour accompagner la décrue de l'épidémie.
Oui.
Et le Premier ministre l'a dit d'ailleurs dans son allocution, lorsque les conditions sanitaires seront réunies, l'idée, c'est de lever le pass vaccinal une fois qu'il y aura suffisamment de lits libérés en réa et que donc on se pourra à ce moment-là le lever en gardant la précaution. La loi, elle permet de le poursuivre jusqu'au mois de juillet. Peut-être, on touche du bois. J'espère qu'on n'aura pas à le réactiver une fois qu'on l'aura désactivé. Mais en tous les cas, les outils sont là. C'est ça ce que je voulais dire.
Monsieur le ministre, pour cet été, question de Sandrine d'Île-de-France.
Bonjour Monsieur le Ministre, est-ce que je peux envisager de voyager cet été en dehors de l'Europe avec mon pass vaccinal ou est-ce que je dois me contenter de l'Europe?
Alors, Jean-Baptiste Lemoyne.
Je vais vous dire, on est en janvier, c'est très compliqué de faire des prédictions pour le mois de juin, juillet, août et surtout à l'international. Pourquoi? Parce qu'on le voit bien, en fait, on n'est pas tous touchés au même moment par les mêmes vagues. Regardez, en ce moment, en France, on pense qu'on est en train d'atteindre le pic et qu'après on va refluer. En revanche, en Allemagne, c'est en train de monter. Au Royaume-Uni, c'est en train de baisser. Ça, c'est ne serait-ce qu'à l'échelle de l'Europe. On voit que les choses sont différentes aussi aux États-Unis, en Asie, etc. Donc, très compliqué de faire des prédictions. Ce que je peux dire, deux choses. Un, n'hésitez pas à vous rendre sur le site des conseils aux voyageurs du ministère de l'Europe des Affaires étrangères. Voilà, et là, vous aurez des données. Et deuxièmement, allez, moi, je suis ministre du tourisme français. J'ai envie de faire cocorico. Vous pouvez faire le tour du monde en faisant le tour de France. Ouais. Tellement, il y a deux choses diverses.
C'est ça.
Oui, oui, parce que vous dites encore qu'il faut favoriser les vacances en France, mais comment justement aider le secteur?
Eh ben, d'une part, on fait de la promotion avec Atou France. On a fait des campagnes toutes ces deux dernières années en incitant à redécouvrir la France. Et d'ailleurs, les Français, je peux vous dire qu'ils ont joué le jeu. Et ils ont joué le jeu pas contraint, mais parce que je crois qu'ils ont été très heureux aussi de voir la richesse. La montagne, l'été, a très bien fonctionné, par exemple. Et de nouvelles habitudes se prennent. D'ailleurs, à la montagne, beaucoup d'acteurs, de stations sont en train de mettre des activités type 4 saisons pour pouvoir attirer tout au long de l'année. Le littoral a toujours très bien fonctionné. Et puis, les territoires ruraux, il y a eu une sorte de redécouverte, là aussi. Je peux vous dire que dans le Jura, dans l'Aveyron, etc., ils ont fait des cartons. Donc la France, elle en a sous le pied.
Je vous écoutais, c'est quand même un casse-tête pour les touristes, pour les opérateurs, avec des règles différentes en fonction des pays. Pourtant, je me souviens de vous, vous aviez promis cette harmonisation européenne. Est-ce que c'est un échec pour vous ?
C'est pas un échec personnel, mais c'est que en fait, chaque État, c'est vrai, veut se donner de la latitude pour gérer sa situation sanitaire. Et donc, comme nous le faisons, les autres États édiquent leurs propres mesures. Alors, c'est vrai qu'on se parle plus au niveau européen entre ministres du tourisme qu'avant la crise, mais à un moment, quand il y a des décisions qui sont prises, c'est vrai que la situation sanitaire dans chaque pays guide ces décisions. Donc, je comprends que ça rend plus complexe les choses, l'organisation du voyage, mais c'est aussi pour ça que moi, je vous dis, n'hésitez pas à avoir recours au service des entreprises du voyage, des agences du voyage. Elles sont là, ce sont des professionnels qui sont là pour vous guider, pour vous conseiller. Et puis aussi, en cas de pépin, ils sont là pour vous rembourser. Donc je pense que c'est important, cette sécurité sanitaire et financière.
Merci Roland, merci Valérie. Ça vous concerne, spécial tourisme, avec le ministre Jean-Baptiste Lemoyne ce matin. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce dimanche matin. On termine toujours avec un peu de musique en rapport avec le sujet. Ce matin, c'était évident. Holiday, Madonna, ça vous rappelle des souvenirs, monsieur le ministre. Bon dimanche.